non, je veux pas café. T'as combien qui va café clutch?
Bonjour, je suis Jérôme Voyat chez Imosquare. Donc, je suis associé et business development manager et je bois du café sans sucre à longueur de la journée.
C'était la phrase d'exemple.
Exactement. Mais c'est la bonne
c'est
phrase.
Vrai, j'ai tapé.
J'ai tapé juste.
J'ai tapé juste, impeccable. Comment ça va, Jérôme?
Ça va très bien, merci.
Ouais, je suis content de t'avoir ici pour la deuxième émission de Café Clutch. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. On peut se tutoyer, hein, j'imagine.
Bien sûr. Grand plaisir.
On a discuté déjà un petit peu avant l'émission. C'est ta première expérience podcast?
Oui, tout à fait. Première expérience.
Ok. Un peu stressé?
Un petit peu, mais j'aime bien ce genre d'expérience. Je suis content. Merci de l'invitation.
Bah, est-ce que tu connais le sens de Café Clutch, le nom de l'émission?
J'avoue que non.
Non, c'est vrai. T'as le droit d'être honnête, à dire oui, je connais, arrête, non, je t'ai ratiné.
Je suppose, mais je n'ai pas l'explication.
Faire Café Clutch, non, ta mère ou ta grand-mère, t'as jamais dit. Non, Café Clutch, ouais, en gros, c'est papoter en prenant un café. C'est des personnes plus âgées qui font ça dans un salon thé, prennent le café, parlent de ragots et tout. Nous, l'idée, c'était de se retrouver ensemble sur un canapé, discuter un peu marketing digital. Je vois que comme tu aimes le café, j'ai vu aussi sur ton profil Facebook, j'ai vu un post Facebook de la page ImoSquare que tu dis ton dessert préféré c'est l'éclair au café.
Exactement.
C'est ça?
Exactement.
Okay. Bon, écoute, comme on a l'habitude, on va prendre l'habitude en tout cas de prendre soin de nos invités, je t'ai ramené un petit éclair.
Ah, c'est sympa. C'est super sympa.
Et comme je n'ai pas déjeuné, en fait, j'en ai pris pour moi aussi.
Ah, c'est cool. Merci beaucoup.
Donc, je prends un petit éclair au café.
Super sympa, voilà. J'apprécie le clin d'œil. Merci beaucoup.
Pas de souci. Écoute, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'émission du jour, qui est révolutionner le secteur immobilier du marketing, on va d'abord, je vais te poser 2-3 questions un petit peu sur ton parcours, essayer d'en apprendre un peu plus sur toi, savoir un peu ce que tu fais, d'où tu viens exactement, pourquoi tu travailles dans ce secteur, quel cursus t'as suivi? C'est la première question, justement. Quel cursus t'as suivi exactement?
Après le bac, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance sur 2 ans dans un cabinet immobilier à Metz que j'ai obtenu. Donc là, j'étais plus sur un job de gestionnaire de gestion de patrimoine et de syndic de copropriété avec un petit peu de location. Et dans un second temps, donc, j'ai fait une licence en gestion de patrimoine que j'ai pas finalisé parce que en fait il y a un poste qui s'est libéré au sein de l'agence où j'étais qui est le cabinet Herbette qui m'a beaucoup appris et que je souhaite remercier aussi dans ce podcast parce que je pense que c'est difficile pour des jeunes. J'avais 17 ans, je suis fin d'année donc j'avais 17 ans à ce moment-là, donc c'est difficile de se lancer dans le monde du travail et franchement j'ai été très bien accueilli et ils m'ont beaucoup
aidé. Mis le pied à l'étrier.
Exactement, ils m'ont mis le pied à l'étrier et ils m'ont fait aimer le métier de l'immobilier. En fait, ils m'ont fait aimer la passion de l'immobilier. Et en fait, après cette licence que j'ai arrêtée en cours d'année, j'ai signé un CDI chez eux jusqu'en 2014. Où en fait, j'ai arrêté parce que je pense avoir fait le tour du job. Donc je voulais voler de mes propres ailes. Donc en 2014, j'ai mis fin à mon CDI.
D'accord, ok, impeccable. Aujourd'hui, tu travailles chez ImoSquare. On dit ImoSquare ou ImoSquare?
Il y a les deux
façons. Les deux.
Tu peux dire ImoSquare ou ImoSquare.
À l'américaine. De toute façon, on va en parler aussi, mais c'est pas une boîte que française, si je comprends bien. Ton rôle exact aujourd'hui chez ImoSquare, c'est quoi exactement?
Alors, mon rôle, il a un peu évolué parce que, en fait, comme toute jeune société qui se respecte, je pense qu'on fait un petit peu tous les jobs à l'intérieur. Donc au début, j'étais vraiment chargé, on va dire, de trouver des nouveaux clients, du fait aussi de mon expérience immobilière, du BTS, de la licence. Donc j'avais beaucoup de connaissances dans l'immobilier, donc j'ai pu aussi moi faire du porte-à-porte et faire jouer mes connaissances pour acquérir de nouveaux clients. Et aujourd'hui, mon travail est plus sur du chargé de projet. Clairement, on a acquéri des gros clients, on en parlera tout à l'heure, qui nécessitent beaucoup de travail individuel. Donc du coup, je suis plus chargé de projet maintenant. Donc exactement, je prends les besoins des clients, les besoins qu'on a sur nos logiciels et en gros, je les remonte à l'équipe technique pour qu'on puisse travailler ensemble après sur les développements. Et ensuite, bien sûr, donc en tant associé de la structure, j'ai aussi un travail, on va dire, de management sur certains de mes profils de la société. Mais voilà, c'est vraiment plus annexe par rapport à mon job de tous les jours.
D'accord. Justement, attends, je reprends mes fiches. Hein. J'ai l'impression d'être chez Michel Drucker. <t'as vu> Michel, si un jour tu écoutes ce podcast...
Mon associé a été chez Michel Drucker. Donc,
c'est vrai
l'année dernière.
Justement, ouais, pour... par rapport à Emo Square, est-ce que tu peux nous présenter un peu la société exactement? Quelle est sa mission? L'objectif en fait de la société, c'est quoi?
L'objectif de la société, c'est de développer des technologies dans l'immobilier. Mmh. Donc en gros, on développe des logiciels exclusivement sur le marché de l'immobilier pour toutes les branches de l'immobilier, donc c'est-à-dire la transaction, la gestion et le syndic de copropriété. Et en fait, nous, le but, alors on n'est pas du tout un logiciel métier, on n'est pas des logiciels métiers, mais on est des logiciels qui viennent se greffer au logiciel métier pour apporter en fait une plus-value. Alors, on va rentrer peut-être plus en détail après, mais voilà, on a trois grandes branches, trois logiciels. On a notre premier logiciel qu'on a créé quand on a commencé à travailler tous ensemble, ça a été le store. Je vous expliquerai ce que c'est, une marketplace. Mm-hmm. Ensuite, on a MLS Connect, qui est un logiciel qui permet aux agences immobilières de transaction de partager du mandat entre elles. Et en troisième, le dernier né, AG Connect, qui a été développé en 2019, juste avant le Covid, qui permet de faire de l'assemblée générale de copropriété en mode hybride, présentiel, distanciel, et de mêler tout ça.
Et donc vos clients, si je comprends bien, donc c'est exclusivement du B2B alors?
Exclusivement du B2B.
Est-ce que tu peux nous parler justement de la genèse en fait d'Immosphere? Comment c'est venu? Parce que voilà, en off, tu me disais que vous aviez des bureaux au Canada, à Nantes, etc. C'est né comment exactement ce projet?
Alors ouais, effectivement, on a une sœur canadienne à Montréal. Donc en fait, ça part de là. Donc c'est un peu comme notre société, c'est une histoire atypique. En fait, Gaël et moi, donc Gaël qui est mon associé à Metz et Luxembourg et donc meilleur ami, en 2014, on a eu envie de changer, comme je le disais, de vision des choses, de travailler pour nous-mêmes. Donc on cherchait un petit peu ce qu'on pouvait faire et on s'est dit, tiens, l'immobilier, c'est cool, mais je pense qu'il manque un petit peu de technologie dedans et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc en gros, on a cherché et on a monté ce qu'on a appelé la conciergerie immobilière. En fait, on voulait apporter du service dans l'agence IMO, notamment dans le métier de la transaction, parce qu'on s'est dit, bon, l'agent immobilier, voilà, on connaît, il prend des honoraires quand même conséquentes, il fait un travail important, mais les gens, en fait, ils le voient un peu comme un ouvreur de porte finalement. Et on s'est dit, tiens, pour l'aider, on va faire une conciergerie immobilière, on va lui mettre des services en plus pour qu'il puisse dire, ok, je prends des honoraires, mais derrière, j'ai un vrai service. Donc, c'était quoi? C'était faire de la photo professionnelle, c'était faire du home staging.
La visite 360, des choses comme ça.
Et là, aujourd'hui, on est en 2024, je vous parle de ça, on était en 2014, il y a 10 ans, honnêtement, les agents immobiliers, on avait plein qui faisaient encore les photos sur leur téléphone et personne ne faisait faire venir un photographe, etc. Donc, vraiment, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. De là, en fait, tout simplement, on a cherché des technos existantes, non existantes, etc., pour développer le projet. Et on est tombé sur une technologie qui s'appelle Cherimo et qui était développée par ImmoScore Canada.
D'accord.
On est rentré en contact avec eux et il s'avère que quand
Donc, on eux existaient déjà depuis.
Eux existaient déjà depuis
plusieurs années.
Ouais, depuis je crois 2013, pas énormément. Ouais, 2013, non, je te dis, on se situe en 2014-2015. Là, eux existent depuis 2013.
D'accord.
Et en fait, en cherchant, on retrouve ImmoScore Canada, on regarde LinkedIn, etc. Et il s'avère qu'on tombe sur Jules Welch. Jules Welch, Gaël le connaît. Il a fait la même école que lui à Nancy, l'école d'ingénierie dans le bâtiment. Et en fait, il le connaît, il me dit, mais c'est quelqu'un qui j'ai fait mon école. Je dis, c'est incroyable quand même, parce qu'on cherche des technologies dans l'immobilier.
C'est un signe.
C'est au Canada, à Montréal, c'est un signe. Il reprend contact avec lui. Ils ont fait le SITC ensemble, à Metz et à Nancy, c'est une école d'ingénieurs du bâtiment. Et je lui dis, oui, nous, on a monté une société au Canada qui fait ça, ça, ça. Je vais te mettre en contact avec mon père, qui est mon associé, qui est Jean-Marc Welch. On fait le call, etc., plein de points communs. Et en plus, il nous dit, voilà, moi, je suis arrivé au Canada, à Montréal, parce que, en fait, j'ai vendu crypto. Incroyable, crypto, logiciel métier dans l'immobilier sur lequel j'ai travaillé chez Herbet. Je me dis, le monde est vraiment petit.
Ah ouais, c'est, ouais.
Et en fait, voilà, donc Jean-Marc, on va dire que c'est ça part de lui. Il a vendu crypto, donc un logiciel qui est très connu en France et au Luxembourg pour de la gestion immobilière et du syndic de copropriété. Et en fait, il est parti vivre à Montréal avec sa famille et il a décidé de développer une autre société, repartir de zéro. Et en fait, Jules, autodidacte, s'est mis dans le développement, donc dans le développement technologique. Et en fait, ils ont monté ImmoSquare Canada, et notamment le produit Cherimo, qui était en fait à la base un connecteur de data. Et avec cette connexion de data, on pouvait faire des choses derrière. Donc on récupérait la data du logiciel métier de qui s'appelle Centris à Montréal, et après on fait des choses derrière. Le but, de toute façon, de nos métiers à nous, c'est la data. Le but, c'est de récolter de la data et de l'utiliser. Voilà. Et donc de là, bah écoute, c'est comme ça qu'est né ImmoSquare Europe, on a appelé, via cette connexion avec le Canada, cette connexion entre nous quatre. Donc on a commencé tout petit à travailler de notre coin avec Gaël, de chez nous. Et en 2018, on a créé notre société, ImmoSquare Europe, donc, avec nos associés. Et de là a commencé l'aventure ImmoSquare Canada avec une réelle société et avec des statuts et tout ce qui va avec.
Ouais,
et
là, ouais, ok.
On a lancé l'aventure.
Des mains comme ça. D'accord, ok. Donc, ouais, donc ce qui vous a motivé à combiner un peu de techno et immobilier, c'est principalement le côté old school du monde de l'immobilier. On va pas vraiment se le cacher, mais c'est vrai qu'en tant que particulier, c'est vrai qu'on a tendance à constater que c'est un milieu qui a un peu de mal vraiment à évoluer au niveau des technologies, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de se pencher sur ce sujet. Tu me parlais d'un espace coworking, le Square, c'est ça ?
C'est ça.
Sur Metz, ça s'adresse à qui ? Est-ce que tu peux nous en dire
plus
sur le...
Bien sûr. Donc en fait, comme on était indépendant, qu'on travaillait chez nous au début avec Gaël, il fallait bien se lancer. Et on a eu l'idée aussi de se dire, allez, à un moment donné, c'est bien sympa, mais il nous faut des bureaux, etc. Donc en fait, il s'avère que donc, Jean-Marc, notre associé, avait des bureaux qui se libéraient rue Pasteur, 28 rue Pasteur à Metz.
Metz, d'accord.
On arrive avec Gaël dans ses bureaux et en fait, on voit un grand local. Alors au début, on arrive dans la salle d'accueil, c'est une petite salle d'accueil. On dit, ah cool, c'est cocooning et tout, ça va être sympa. Puis après, on marche, grande verrière, 6 bureaux privatifs, une salle de réunion. Donc 200 mètres carrés, entre 200 et 220 mètres carrés, une cave en bas. On se regarde un peu avec Gaël, on dit, ouais, mais attends, on est deux quoi.
C'est confort, mais c'est
super, c'est on va avoir de la place, tu prends le bureau que tu veux.
On va pas se battre.
On va pas se battre, c'est top. Et puis du coup, avec notre expérience un petit peu immobilière, je me dis, pourquoi pas tenter le coworking, être un peu précurseur sur le sujet. On n'a rien à perdre, personne n'en fait presque à Metz. Je crois qu'on est arrivé à peu près en même temps du poulailler Blida à Metz. Je crois qu'on est arrivé à peu près en même temps, je dirais.
Blida, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre, c'est un espace de coworking. Et plus pour des artisans,
exactement,
c'est ça.
Exactement, Blida, en fait, c'est étatique, je pense. C'est Metz, la ville de Metz qui gère ça.
Ouais.
Et en fait, c'est plus un espace où il y a des artistes qui ont des locaux et qui peuvent venir travailler. Ils font plein de choses.
Indépendant, de la menuiserie, de la poterie, des choses comme ça.
De la peinture, il y a plein d'artistes.
Ça donne un espace, un atelier dans lequel ils peuvent travailler tranquillement.
Ouais. Exactement, puis ils ont fait aussi un espace pour travailler, pour la tech, etc. Enfin, voilà, donc un espace dédié. Et on arrive à peu près en même temps, je pense. Après, honnêtement, c'est pas grâce à eux qu'on a monté ça. Hein.
C'est vraiment. L'espace de coworking, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que moi, maintenant, si je deviens freelance pour n'importe quel genre d'activité, je peux venir.
En fait, on s'est dit, tiens, il y a des bureaux.
C'est pas lié au monde de l'immobilier,
dire. Non. En fait, on s'est dit, tiens, il y a des bureaux.
C'est pas des agents immobiliers qui ont pas. Tu sais, des indépendants qui ont besoin d'un petit bureau à un moment donné et de se greffer. D'accord.
C'est vraiment ouvert à tout le monde.
D'accord.
Et en fait, quand on a eu l'idée, on a monté ça et on s'est dit, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc on a commencé à faire des annonces sur le Bon Coin, puis on a dit, on verra bien, est-ce que ça va marcher ou pas. Et en fait, nous, on partait sur une histoire de coworking, sauf qu'en fait, finalement, avec le recul, aujourd'hui, en fait, c'est des sociétés qui sont venues travailler avec nous, qui sont là presque depuis le début et qui partent plus parce qu'en fait, il y a une bonne ambiance de travail.
Ouais.
Faut pas se mentir.
Il y a des synergies qui
les charges sont partagées. Ça aussi, à un moment donné, quand tu n'as pas besoin d'un bureau avec une vitrine, etc., pourquoi t'irais payer un loyer cher avec de l'électricité, des taxes, etc. En fait, on les partage. Et en fait, c'est incroyable cette histoire parce que finalement, nous, on est passé de deux à une quinzaine de personnes qui ne travaillaient pas dans notre société très vite. Et ça nous a
aidé. Il a fallu se battre maintenant pour les bureaux.
Il faut se battre.
D'une quinzaine de bureaux, c'est ça ?
Une quinzaine de personnes.
Une quinzaine de personnes.
Réparties sur 6 bureaux privatifs.
Ah d'accord, 6 bureaux privatifs.
Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de bureaux et qu'on travaille de l'accueil parce que on a même plus de bureaux. Voilà. Donc pour la petite histoire, on a une société de formation, on a une société, on a Gaz Européen qui est une filiale de Butagaz, on a une société Valorissimo qui est une filiale de Bouygues Immobilier. En fait, c'est des gens qui sont tout seuls, c'est des commerciaux qui ont le Grand Est, etc. Et qui sont tout seuls et qui n'ont pas envie de travailler de chez eux et qui ont envie d'avoir aussi de la synergie et aussi Comme vous, ici, dès le matin, arriver, salut, ça va, prendre le café ensemble, discuter et pas être dans son coin. Et on a aussi beaucoup de gens qui viennent travailler à la journée, des Parisiens, on est à côté de la gare, comme nos bureaux à Luxembourg sont à côté de la gare, ouais. C'est vachement pratique.
Gare, c'est super pratique.
Ils viennent travailler à la journée, pas plus tard qu'hier.
Les gens qui sont dans les bouchons de la 31 le
diront. Voilà, exactement. Et pas plus tard qu'hier, on a une personne de chez Blablacar qui est venue travailler de chez nous, qui venait de Paris, qui venait bosser sur Metz. Et il a ouvert la porte, il a dit ce que je peux bosser là aujourd'hui. Donc aucun problème, on avait un bureau disponible et puis on leur a loué.
Mais... Vous avez des envies de voir plus grand tu parles de 6 bureaux privatifs, c'est... C'est une volonté quelque part un peu réfléchie d'essayer de s'agrandir ou est-ce que vous contentez, enfin je veux dire c'est peut-être un noyau suffisant pour justement continuer à avoir des bonnes synergies entre les différents partenaires.
Bah écoute, à vrai dire, à un moment donné on s'est posé la question d'agrandir alors pas par ce local où on n'avait pas la possibilité mais par un autre et en fait on n'a pas passé le cap parce que il y a eu des business centers qui se sont ouverts sur Metz et on s'est dit bon ils font bien le travail, je pense que c'est pas notre job principal. Nous c'est vraiment comme je l'ai expliqué une annexe à Imo Square, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Square, ça s'appelle le Square Coworking. Mais du coup non, on va pas évoluer sur ce business là parce que ça restera vraiment le Square et une synergie entre les entreprises qu'il y a là. Et nous, on va plus vraiment développer Imo Square parce qu'il y a beaucoup à faire et on veut vraiment se focaliser sur cette partie-là.
Ok, parfait. On va rentrer peut-être un peu plus dans le sujet de l'immobilier, si tu veux bien. Aujourd'hui, on sait un peu que Luxembourg, c'est compliqué d'acheter un bien ou de vendre un bien. Comment tu penses qu'on vend aujourd'hui un bien immobilier au Luxembourg ? Est-ce qu'une agence immobilière physique, c'est encore pertinent ? Est-ce que le développement des mandataires indépendants, enfin voilà, ce genre de personnes, on voit popper partout des panneaux avec des agents. Comment en fait tu vois évoluer ce secteur et enfin qu'est-ce que tu penses de ça et comment vous vous adaptez par rapport à ça?
Alors en fait, c'est vraiment des questions pertinentes. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut qu'on différencie les types de métiers dans l'immobilier à Luxembourg. Si on parle de la transaction, donc de la vente et de la location. Aujourd'hui, clairement, c'est les agences physiques qui fonctionnent. Je pense qu'au Luxembourg, étant vraiment un petit pays, je pense que les gens aiment travailler avec les gens en qui ils ont confiance, justement. Donc, une agence physique, aujourd'hui, à Luxembourg, est primordiale pour moi.
C'est indispensable. Clairement. C'est indispensable.
Je parle de Luxembourg, je peux parler de Metz, pareil. Pour moi, c'est la même logique. Une agence physique, pour moi, est indispensable. Et surtout, le contact physique est indispensable. Les mandataires immobiliers, ils ont pris...
Part de marché.
Donc, ouais, j'allais dire
enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'en tant que particulier, je...
Une bonne part de marché sur la France.
Ouais.
Je pense qu'à Luxembourg, ici, non.
C'est différent.
C'est différent. D'accord. Ouais. Ouais, je pense qu'ici, ils n'ont pas leur place, honnêtement. Et je pense que c'est très bien parce que les agences immobilières font un travail qui est intéressant. Parce que moi, je n'ai rien du tout contre les mandataires immobiliers. Bien au contraire. Hein, moi, j'ai des amis qui sont mandataires immobiliers. Je suis issu de l'immobilier. Je dis juste qu'ils ont plus de facilité... entre guillemets, sur le fait qu'ils n'ont pas moins de charges. Je ne dis pas de charges, mais moins de charges qu'une agence physique. À un moment donné, il ne faut pas se mentir.
Oui, c'est évident.
T'as un agent immobilier, t'as ton agence immobilière, t'as plein de charges, t'as plein de règles, t'as plein de lois, t'as plein de législations. À un moment donné, c'est plus difficile. Voilà, c'est ce que je dis. Et le turnover des mandataires immobiliers, en France en tout cas, est énorme. Quoi. Je veux dire, j'ai une stat, je crois, en 2023. Si je ne me trompe pas, tu as plus de 10 000 mandataires immobiliers qui ont arrêté.
Ah ouais ?
En France.
Là, trop concurrentiel, certainement
Puis, conjoncture.
La conjoncture est assez compliquée.
Et la stat, elle continue sur le fait que tu as 890 agences immobilières qui ont fermé en France en 2023. Okay. Donc, pour donner la différence aussi, quand même, de proportion. Donc ça, c'est pour le métier de la transaction immobilière. Maintenant, le métier du syndic de copropriété au Luxembourg, et ça marche très bien, il y a des agences qui ont pignon sur rue sur ce sujet-là. Ils font très bien le travail. Le gestionnaire immobilier aujourd'hui, c'est presque, entre guillemets, c'est marrant, mais peut-être quelqu'un de la famille, je veux dire... il vient sur place, il discute, il est présent. Mm-hmm. Les copropriétaires, de ce que je sais en tout cas, sont plutôt contents et satisfaits du travail qui est fourni. Là, honnêtement, sur ce penchant du métier-là, vraiment, il y a de l'avenir. Hein, je veux dire, à un moment donné, tu auras toujours besoin d'un syndic de copropriété.
C'est clair.
C'est obligatoire. Et je trouve, malheureusement, pour moi, qui on est tous bon, copropriétaires en soi, je veux dire, quand tu as une maison, non, mais je trouve qu'on devrait vraiment prendre plus de considération pour ce métier. Moi qui l'ai fait un peu dans mon cursus, moi qui le vois au quotidien avec nos clients, je trouve que c'est un métier compliqué. C'est pas un métier, c'est vraiment un métier, ça demande vraiment beaucoup d'humains et avoir beaucoup de cartes à son arc. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont fui un peu ce métier malheureusement parce qu'il n'a pas vraiment peut-être une belle image auprès de la profession. Et j'en profite d'être ici avec vous pour défendre ce métier parce que finalement, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et une carte à jouer quand tu es jeune et que tu es motivé, que tu as envie, envie de faire quelque chose. Voilà.
C'est intéressant parce que bon, on en a parlé dans l'épisode précédent avec Antoine. Tout le monde a vu arriver l'intelligence artificielle il y a maintenant 2 ans environ. Quel impact ça a joué ces 2 dernières années sur l'économie de l'immobilier? Parce que, encore une fois, on disait tout à l'heure, ça semblait un milieu un peu old school où vous proposez vraiment des services beaucoup plus modernes. Est-ce que vous avez vu vraiment un danger arriver ou est-ce que c'était vraiment une opportunité de booster encore plus vos services?
Alors en fait, par exemple, pour le métier de la transaction, nous, quand on a commencé, on était à Metz. Hein. Faut pas oublier qu'on part de Metz, on va au Luxembourg, on regarde un peu ce qui se fait près de chez nous. Et en fait, on découvre entre guillemets Paris et un salon qui s'appelle le Rent, salon spécialisé dans la technologie liée au métier de l'immobilier. Et là, on regarde et en fait, on se dit dans la transaction, mais il y a vraiment de la technologie à foison. En fait, il y a plein de startups, il y a énormément de startups. Et par exemple, j'ai un souvenir d'un Rent où on est arrivé et la technologie Matterport. Vous savez, technologie Matterport, c'est de prendre des apparts ou des maisons en 360, de les scanner.
Ouais.
Et de pouvoir faire des visites depuis son ordinateur, depuis son smartphone, sa tablette de chez soi et visiter le bien. Mais il n'y avait que des gens qui faisaient ça. J'étais halluciné en fait. Et en fait, dans la transaction, dans le milieu de la transaction, il y a vraiment énormément de technologie. Donc en fait, là, l'intelligence artificielle, on la voit arriver d'un très bon œil en soi. Donc là, le Rent de l'année dernière, le Rent d'avant, c'est marrant parce que y avait beaucoup de startups qui se sont basées sur l'IA. Donc après, l'IA, c'est un vaste sujet. Donc ça, c'est pour le côté de la transaction et juste pour le côté de la gestion du syndic. Dans la gestion, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont... Donc la gestion, juste pour rappeler, la gestion, c'est en fait de gérer un bien. C'est-à-dire qu'on gère le bien pour le propriétaire, on va le louer et on va le gérer auprès du locataire. On va récolter les loyers, gérer les travaux et après payer les loyers au propriétaire. Excuse-moi. Et en fait, là, il y a aussi pas mal de techno. Parce qu'il y a l'état des lieux, il y a l'état des lieux sur tablette, il y a la gestion des problèmes par rapport à une application, en direct avec une application. Il y a toute la gestion du dossier locatif aussi, qui est un gros sujet, le dossier locatif. L'assurance locative pour le propriétaire, l'assurance loyer impayé. Enfin, il y a plein de sujets qui ont été mis en place avec la technologie. Et le syndic, c'est vrai que c'est celui qui est un petit peu en retard. On en reviendra peut-être après.
Ouais.
Mais c'est celui qui est un petit peu en retard sur ce métier-là. Alors après, l'IA... Nous, on la voit arriver vraiment sur l'optimisation de la data.
Mmh.
Voilà. On récolte de plus
en plus. Pour le daily business, c'est moins important. Enfin, je veux dire, automatiser des tâches que tu fais toi en gestion de projet ou des choses.
Encore compliquées aujourd'hui.
C'est encore compliqué, ouais. Mais c'est encore trop frais.
On ne va pas se mentir, hein, ChatGPT, quand même, on l'utilise. On l'utilise bien. Alors, nous, on l'utilise en tant que technologie immobilière. Aujourd'hui, une agence IMO, je ne sais pas du tout s'ils utilisent ChatGPT. Pour moi, je pense que c'est précurseur.
Ouais, ouais.
Alors, ils ont dans leur logiciel métier de la rédaction de texte intelligent, par exemple.
Rédaction d'annonce.
Exactement, rédaction d'annonce pour améliorer leurs annonces IMO, que ça soit en référencement ou que ça soit aussi en contenu. On va dire que ça se situe beaucoup sur ce sujet-là. Après, plus loin, je pense pas. Aujourd'hui, je pense pas, honnêtement. Ou alors, celui qui va plus loin, c'est qu'il est déjà dans l'immobilier précurseur de quelque chose. Parce que finalement, on peut pas non plus... Si, par exemple, on fait de la retouche photo avec l'IA.
Avec l'IA ?
Avec l'IA.
Ah ouais ? Avec quel genre d'outil ?
En fait, l'outil qui permet de faire ça chez nous, ça s'appelle Pixiz. Et en fait, au début, c'était des personnes derrière. En fait, c'était un peu du Photoshop à grande échelle. On bossait avec une boîte qui travaille pour Club Med, pour toutes ces sociétés-là, tu sais, en fait, qui retapent toutes les images pour après leur marketing. Et en fait, aujourd'hui, on a trouvé aussi d'autres structures qui font déjà travailler l'IA, où en fait, je ne connais pas leur techno, moi, personnellement, mais en fait, il y a de moins en moins d'humains pour les retouches des photos, en fait.
D'accord.
Voilà, donc l'intelligence artificielle est capable.
Et on est capable de déceler la différence entre le travail, enfin, une retouche faite par un humain de l'IA ou...
C'est de plus en plus compliqué.
C'est de plus en plus compliqué,
ah, oui,
ouais.
Honnêtement.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, un agent immobilier qui prend une photo. L'appartement, il est bien aménagé, il y a beaucoup de choses, etc. On ne voit pas la profondeur de la pièce, on ne met pas trop en avant la pièce et le potentiel.
Mm-hmm.
Ben, y a des agences IMO qui, au lieu de s'embêter, de demander au propriétaire de changer ci ou ça, ou ci ou ça, ils prennent la photo, ils nous l'envoient, ils nous disent « Voilà, est-ce que vous pouvez vider la pièce ?»
D'accord.
Voilà. Et nous, on avait quelqu'un qui le faisait, pas chez nous, mais voilà, avec une structure qui est spécialisée là-dedans. Et aujourd'hui, on a fait des tests avec l'IA, c'est impressionnant.
Hein. Et de la génération de photos basées, je ne sais pas, sur un plan, par exemple, simplement. Tu n'as pas de photos, on n'est pas en mesure, enfin voilà, pour des raisons qui m'échappent, peut-être. Pas le moyen de prendre des photos intéressantes pour vendre le bien sur un plan. Tu peux.
C'est un gros
éventuellement,
business.
C'est un gros business, ouais.
Ça a été développé en France. Il y a beaucoup de sociétés qui ont développé ça, des startups et tout. Il y en a une qui a pris le marché, on va dire, pour moi. Il s'appelle Rinov. Ils ont été même beaucoup plus loin parce qu'ils faisaient du B2B, ils sont passés en B2C et ils ont même fait un partenariat maintenant avec Maison du Monde.
Donc, ah ouais.
Voilà, donc avec Maison du Monde et ils permettent de meubler les plans avec, ou les photos, ils font du travail sur plan,
ouais,
sur
bah
photo,
oui, ça,
avec les meubles de Maison
vendent.
Du Monde.
Ah, oui, voilà.
Et voilà, donc il y a plein de connexions qui peuvent se faire, c'est ça qui, moi, m'hallucine. Et moi, en fait, les sociétés-là, je les ai vues grandir au Rent quand je suis arrivé et vraiment, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Où ils vont, et d'où ils partent et où ils sont aujourd'hui, quoi, en fait. Voilà.
J'avais une dernière question, mais je pense qu'en la lisant, tu as à moitié répondu. Hein. Les innovations technologiques, donc les plus significatives que vous avez intégrées à vos services, comment elles ont transformé l'expérience de vos clients, en fait, ça simplifie clairement tout leur travail.
Nous, dans les services que là, je viens de vous dire, on ne les utilise pas tous dans notre logiciel métier. Hein, donc, notre logiciel métier, que ça soit... Dur à comprendre parce que sur les trois logiciels que je vous dis, il y a des logiciels qui sont plus métiers que d'autres, mais on va dire que sur MLS Connect, qui est pour les transactionnaires en partage de mandat, et AG Connect, qui est de l'assemblée générale hybride, mm-hmm. t'as pas les mêmes technologies qui sont utilisées dedans. On va dire que dans MLS Connect, effectivement, l'IA, on va le brancher plus sur de la rédaction de contenu et aider les agences et les clients à développer leur contenu annonce pour vraiment s'améliorer. Même par exemple les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, etc. Il ne faut pas oublier que ça reste de l'humain et c'est de la saisie humaine à la base. Donc tout ça, on peut essayer de l'améliorer. Autre possibilité, pour que vous compreniez, nous, notre logiciel partage de mandat, ça veut dire qu'en fait, tu as, par exemple, dans le sud de la France, on a 500 agences qui collaborent ensemble dans les Alpes-Maritimes.
Mm-hmm.
Ce qui veut dire quoi? C'est que ces 500 agences, elles peuvent travailler les mandats de chacune. Donc ce qui veut dire que si moi, je prends un mandat que toi, tu vas vendre ce mandat et que tu veux le proposer à quelqu'un, dans le texte d'annonce, s'il y a ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, je ne peux pas le proposer.
Ah oui.
Parce qu'en fait, tu vas avoir les coordonnées de l'agence qui propose le mandat.
Ouais,
donc
sûr.
En fait, l'IA, où ils peuvent nous aider, c'est en fait, on peut lui demander de supprimer les coordonnées de contact. On
okay.
a fait le test ChatGPT, ça marche très
ça
bien.
Marche... Ah ouais.
Ça marche très bien. Ils sont capables de supprimer un numéro de téléphone, de supprimer des coordonnées, etc. Autre exemple dans ce système-là, les photos. T'as des photos en fait où les agences mettent leur marque dessus.
Ouais.
En fait,
les filigrammes
de marque de leurs agences. Donc là, par exemple, l'IA à aujourd'hui n'est pas encore capable d'enlever correctement, on va dire, et bien fait le filigramme. Ouais. Mais ça va.
Mais ça va venir.
Je sais que ça va venir. Je sais. Mais par exemple, dans notre métier, sur ce logiciel-là, ça va vraiment nous aider, quoi. Parce que aujourd'hui, c'est un frein à la collaboration et à notre développement personnel, du coup. On va pas se mentir, dans les conjonctures qu'on connaît aujourd'hui, qui est une conjoncture difficile de l'immobilier en 2024, les agences transactionnaires aussi, c'est quoi leur porte de sortie? C'est de pouvoir collaborer avec d'autres agences, c'est de pouvoir échanger du mandat. Ça veut dire que toi, tu n'as pas forcément aujourd'hui beaucoup de mandats, tu as du client qui a ce besoin, et bah là, il a accès à une data incroyable. 500 agences qui travaillent entre elles, certaines agences font plus de 80% de leur chiffre d'affaires grâce à notre logiciel. Et l'association qui est derrière, attention. Parce qu'il y a une association qui gère tout ça, mais notre logiciel permet de gérer tout ça, en fait.
Ouais, ouais.
Manage tout ça.
Okay.
Voilà, donc ça, c'est pour MLS Connect. Et après, pour AG Connect, on aimerait bien mettre de l'IA plus peut-être dans de la traduction, par exemple, parce qu'on fait de l'Assemblée Générale en live. Donc, par exemple, donc on fait du vote en live, on fait déjà pas mal de choses, okay. on est déjà bien avancé sur de la techno. Mais on aimerait, par exemple, que l'IA nous permette de faire de la traduction en live, pourquoi pas. En fait, le gestionnaire, il est en train de parler. L'application, elle est déjà transcrite dans les plusieurs langues. Mais pourquoi pas l'appli l'IA et nous disent, ben voilà, le gestionnaire, il parle français. On a une personne qui est luxembourgeoise, une personne qui est espagnole, une personne qui est italienne. Et pourquoi pas, sur chaque ordinateur ou sur chaque tablette, ça soit traduit dans la langue directement en live de la personne. Ça pourrait être super, super intéressant pour nous. Autre sujet, l'IA, pourquoi pas, il pourrait nous faire notre procès-verbal à la fin de l'Assemblée Générale. Tout ce que le gestionnaire il est en train de dire, tous les échanges qu'il y a, il le tape directement et en fait, à la fin, le procès-verbal, il est fait automatiquement. Il n'y a rien besoin, il n'y a plus d'action du gestionnaire. Voilà, tout ça, l'IA, par exemple, chez nous, pourrait clairement nous aider, nous donner un coup de pouce. Et moi, je pense que ça va arriver très, très, très rapidement.
Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça confirme un peu la discussion qu'on avait eue avec Antoine sur le premier épisode, sur le fait que, quelque part, l'intelligence artificielle, faut pas la voir que d'un mauvais œil. C'est davantage aussi pour booster sa productivité que pour la détruire. Merci beaucoup. Moi, je vais laisser la place à Naïm.
Merci beaucoup.
Qui a posé des questions encore plus techniques, mettre un peu plus dans le contexte. Bonjour Jérôme.
Bonjour Naïm.
C'était super intéressant la partie avec Patrice. J'ai appris pas mal de choses. J'aimerais bien revenir sur aussi une chose qui me semblait importante. Donc alors, tu travailles pour ImmoSquare. ImmoSquare, c'est une suite de logiciels, trois principaux, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Donc, tu as un logiciel qui est le Store. Donc, c'est une marketplace. Pour faire très bref, ça permet de connecter des partenaires à leur logiciel métier. Donc, tu prends le logiciel métier du client. Il veut, avec cette data, connecter d'autres choses. Je prends un exemple très concret. Un syndic de copropriété qui veut faire de l'envoi, par exemple, de recommandés. Il y a un prestataire qui fait ça, on est au milieu, il paye une prestation, le prestataire se connecte à notre store et après ça permet d'échanger de la data. Ça s'appelle le store, c'est une marketplace. On travaille en exclusivité avec un groupe qui s'appelle le groupe Orisha, qui est le plus gros groupe français de logiciels métiers, si je ne me trompe pas. Tu en as deux, tu as Septéo et eux, je pense qu'ils ils se valent. Et aussi au Luxembourg, ils détiennent tous les logiciels métiers du Luxembourg, c'est le groupe Orisha. Voilà. Donc ça c'est vraiment une exclusivité. Ensuite, tu as MLS Connect, notre deuxième, c'est notre plus gros logiciel, mais dans le développement, ça a été notre deuxième logiciel. On l'a racheté en 2018 et on l'a redéveloppé. C'est notre grosse partie. On vient de le redévelopper entièrement. Donc, on va le livrer là seulement maintenant. Ça a été un très, très gros job pour nous et toutes nos équipes. MLS Connect, partage de mandat entre agences immobilières. Un client aujourd'hui dans le sud de la France, 500 agences qui collaborent entre elles, et un autre client qui s'appelle GNI Connect, un petit peu partout en France, à peu près 300 agences qui collaborent entre elles via ce réseau. Et enfin, AG Connect, donc le dernier né, 2019, Assemblée Générale de Copropriété en hybride. On permet aux copropriétaires de faire leurs assemblées générales en présentiel, avec le vote à la main levée comme avant, ou alors avec leur smartphone, un peu comme c'était un boîtier de vote avant. Donc tu peux voter avec ton smartphone directement en live. Sur les grosses assemblées, ça, je peux vous dire que ça marche bien. Ou alors tu te connectes à distance et tu peux voter de chez toi, de ton travail, de où tu veux, de Chine. On a des copropriétaires qui sont en Chine, qui sont en Thaïlande, ils viennent, ils sont trop contents de pouvoir suivre une assemblée générale parce qu'ils n'avaient pas pu en suivre depuis 10 ans. Ils sont super contents. Et voilà, et ça c'est le troisième logiciel, le dernier né.
Comment est-ce qu'on arrive à toucher un milieu aussi niche avec autant de concurrence ?
Très compliqué. Honnêtement, très très compliqué. Moi qui ai un commercial pur et dur de base, c'est toujours mon petit problème personnel en gros. Parce que on va dire que j'ai toujours eu cette fibre commerciale et cette, entre guillemets, facilité d'acquisition client. Enfin, quand j'étais dans l'immobilier, je faisais de la location, je louais plein d'appart, plein de maisons, j'étais super content, ça rentrait, ça sortait, etc. Là aujourd'hui c'est très compliqué, on est dans un métier de niche comme vous l'avez compris, on doit trouver une cible qui est la nôtre. On l'a trouvé avec MLS Connect par rapport à de l'acquisition. On a racheté un logiciel qui nous a permis d'acquérir l'association qui est la MLS Côte d'Azur aujourd'hui. Mais par exemple, on a trouvé GNI Connect, donc c'est du travail de longue haleine. C'est compliqué, mais on y arrive. Voilà. Après, il ne faut pas perdre espoir. C'est surtout ça. Nous, commerciaux, chez nous, aujourd'hui, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, oui, c'est compliqué parce qu'on est dans un métier de niche. Mais quand on trouve un client, c'est un gros client et c'est quelqu'un qui nous fait évoluer. Pareil pour AG Connect. Au début, en temps de Covid, toutes les gestionnaires de syndic nous ont appelés. Je ne peux plus faire d'assemblée. Il n'y a que AG Connect qui peut faire de l'assemblée générale, légalement. Parce qu'il y a aussi l'aspect de se dire, attention, moi je vais faire un Teams, je vais faire un Meet. Oui, ok, mais il y a tout un aspect légal derrière la technologie. faut que le copropriétaire soit authentifié, il faut que tu aies son adresse IP, que tu aies toute une signature du PV, de la feuille de présence, excuse-moi. Voilà, plein de choses. Et en gros, on a ça. Et donc, après Covid, qu'est-ce qui se passe? Le présentiel revient. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dû passer à l'Assemblée Générale Hybride. On a eu un moment de trou, forcément. Un moment où on a dû changer notre business model. Mais aujourd'hui, c'est simple, 2023, on a fait autant d'AG qu'en 2021, voire plus maintenant, parce qu'on a acquéré un nouveau autre client. Alors, c'est un gros client bancaire qui est au Luxembourg, qui est en France. Enfin, c'est un gros client bancaire, je ne peux pas vous donner le nom pour des questions de confidentialité avec eux. Mais voilà, et donc, c'est plus de. Par exemple, ce client-là nous fait presque plus de 500 à 600 assemblées générales par an. Aujourd'hui, 2023, on a fait 108 500 AG, pour vous donner un petit peu, juste sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Je ne prends pas le Canada avec, qui est encore aussi, lui, AG Connect, avec une toute autre façon de travailler. On travaille sur des buildings de plus de 700 copropriétaires, enfin, ça n'a rien à voir. Grosse machine. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, on est reparti sur quelque chose vraiment intéressant pour AG Connect sur l'après-Covid.
Alors, on en a un peu parlé, tu as fait un superbe pont pour ma prochaine question. Comment est-ce qu'on arrive à évoluer dans un milieu aussi légiféré que l'immobilier, quand on veut faire de l'innovation?
Il faut avoir un Jean-Marc Welch avec nous. Donc, notre associé Jean-Marc, vraiment, il est très, 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 très fort là-dedans. Il s'y connaît beaucoup déjà par son expérience, par son ancien logiciel métier qu'il a développé, et aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances et qui s'intéresse. Moi, j'ai fait du droit dans l'immobilier aussi par rapport à mon cursus, donc j'ai un peu des notions, bien sûr, de départ. Et puis après, on est obligé de chercher, de s'intéresser. Et puis voilà, on a des clients en France, à Luxembourg. À Luxembourg, c'est une législation encore qui est différente. C'est une obligation de devoir être à jour tout le temps. C'est notre business qui passe par ça. On fait que du juridique aussi dans notre logiciel, dans nos logiciels. On peut pas se rater. On peut pas se rater, que ça soit dans la transaction ou que ça soit dans le syndic de copro pour AG Connect. T'imagines, on a des votes, à des articles, on a l'authentification, comme je disais, qui est une obligation légale. Parce que pareil, ça c'est sympa en termes de, on peut en parler un petit peu, mais je trouve ça sympa dans ce contexte, c'est que aujourd'hui. L'Assemblée Générale, tu étais en présentiel, tu allais signer une feuille de présence avec un stylo, tu attendais que tout le monde signe, les un par un, ça mettait une heure quand tu avais une assemblée de 200 personnes, etc. Tu arrives en 2019, en 2020, il y a l'Assemblée Générale hybride qui arrive avec le distanciel, comment tu fais? La France, par contre, ils ont vraiment joué le jeu, ils se sont dit oui, il faut qu'on améliore le process, et ils ont légiféré ça. Donc ils ont laissé la possibilité à des technos comme les nôtres de vivre et de créer. Donc ça, c'était super bien. Le Luxembourg, pareil, pendant le Covid, ils ont dit « Ok, on ne peut plus, vous pouvez le faire ». Par contre, le Luxembourg a aujourd'hui, légalement parlant, un temps de retard et ils sont en train de travailler dessus parce que, légalement parlant, le distanciel n'est pas autorisé. Parce que tu dois réaliser l'assemblée générale de copropriété dans la commune de l'immeuble. Ok ? Voilà. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué pour eux de faire du distanciel. Par contre, ils vont utiliser notre outil comme outil d'assemblée générale. C'est-à-dire que nous, l'outil, il ne faut pas le prendre que comme un outil de présentiel ou de distanciel, c'est un réel outil d'assemblée. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas de l'hybride, l'outil te permet d'authentifier des copropriétaires en présentiel, il te permet de faire du vote sur smartphone. Rien que la semaine dernière, on a fait une assemblée générale en Savoie. Il y avait 300 copropriétaires, il n'y avait pas de distanciel. Ils ont loué une grande salle et au lieu de prendre des boîtiers de vote, ils ont tous pris leur smartphone, ils ont signé la feuille de présence sur le smartphone, ils ont voté sur le smartphone. Donc ça marche aussi comme ça. Et à Luxembourg, on a quelques clients, notamment un client qui est le fonds du logement, avec qui on travaille, qui a décidé de prendre AG Connect comme logiciel métier pour l'Assemblée Générale. Et je pense que eux et d'autres, on a quelques discussions en cours sur des syndics, ils n'entendent qu'une chose, je pense, c'est de pouvoir amener du distanciel avec le Luxembourg. Je pense qu'aujourd'hui, à Luxembourg, avec la population qui est tellement cosmopolite et tellement qui vient de partout dans le monde, je pense qu'un copropriétaire, c'est la cible parfaite, en fait. Tu as des investisseurs de partout. Je pense qu'ils ont envie de suivre leur assemblée générale comme n'importe quel copropriétaire. Ils sont partout dans le monde. Ils peuvent suivre leur assemblée et savoir ce qui se passe. C'est un peu la réunion, c'est marrant, ça va peut-être, c'est un peu le café clutch de la copro, quoi. Hein,
oui.
C'est...
Mais je peux comprendre que ce soit frustrant, parce que techniquement, c'est possible, la technologie, elle existe, elle est là, c'est juste une question de loi. Et donc, tu expliquais que le Grand-Duché était un peu moins souple que la France. Est-ce que le futur législatif luxembourgeois, est-ce qu'il s'annonce positif à ce niveau-là?
Je pense que oui, parce que du coup, par nos connaissances, on travaille avec la chambre immobilière du Luxembourg. Et cette chambre a en tout cas envie d'évoluer. On travaille aussi avec quelqu'un qui est très connu dans le monde du syndic à Luxembourg, qui s'appelle Sydney. Du reste, je lui passe le bonjour. Qui est quelqu'un en fait, qui nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup, il a une grande connaissance du marché. Il a travaillé dans des grands syndics, des grandes sociétés luxembourgeoises. Et donc, il nous aide beaucoup sur ce sujet-là. Et je pense que ça va évoluer positivement dans les mois à venir. Je dis les mois, j'espère les mois à venir en tout cas, ou au plus tard, année à venir.
Ok, donc c'est très positif globalement.
C'est très positif pour moi globalement.
Et si maintenant je me mets à la place d'un prospect de ImmoSquare et que je te pose la question, comment est-ce que je peux chiffrer le gain en productivité que j'aurai en utilisant la suite ImmoSquare ?
Eh bien écoute, c'est une très très bonne question. Le store et MLS Connect, je ne vais pas pouvoir te répondre. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas chercher le gain de productivité. Le store, non. MLS Connect, oui et non. Pourquoi ? Parce que MLS Connect, sa vocation, c'est de pouvoir collaborer entre agences immobilières. Donc vraiment, le gain de productivité, c'est pas vraiment l'objet premier. On va dire que le but, c'est de permettre à un agent immobilier de se dire « Ok, je suis tout seul dans mon coin, je suis avec plein de professionnels de l'immobilier, je peux partager mes mandats, je peux travailler leurs mandats, je peux collaborer. » Et en fait, il vaut mieux vendre 50% de quelque chose que 100% de rien, quoi, en fait. Mmh. C'est ce qu'on dit toujours. Et cette mentalité-là, elle est dure en France. Elle est très dure en France et à Luxembourg. Au Canada, expérience canadienne, Jean-Marc et Jules sont mes associés là-bas. Aujourd'hui, la collaboration, c'est 95%. T'as presque pas de marché du particulier au Canada. Et en fait, t'es obligé de collaborer. Ça passe par un logiciel, ça s'appelle Centris. T'es obligé de collaborer. C'est-à-dire que tu es un courtier, ça s'appelle les courtiers, ce n'est pas des agences immobilières. Le courtier, il rentre ses mandats sur le logiciel. S'il y en a un qui veut les sortir, il a le droit de les sortir. Et ça marche hyper bien. Aux États-Unis, c'est pareil. En France, à Luxembourg, la mentalité est différente. Vraiment, le MLS...
Ça va venir, peut-être.
Ça va venir. Ouais. Le MLS Côte d'Azur, chez nous, on les appelle un peu le village gaulois, en fait. Parce que c'est les précurseurs. C'est des gens qui ont vu l'avenir avant tout le monde. Et aujourd'hui... Ils collaborent ensemble depuis plus de 20 ans, quoi. Je crois qu'ils fêtaient leurs 30 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le gain de productivité, je pense qu'il est aussi, entre guillemets, exprimé là-dedans. Par contre, sur AG Connect, il y a un gain de productivité qui est incroyable pour un gestionnaire de copropriété, de toutes les façons. Aujourd'hui, AG Connect, quand tu es gestionnaire, tu rentres ton assemblée générale dessus. Donc le but, c'est d'aller chercher la data du logiciel métier, de la faire venir. Et avec cette data, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des invitations mail et ou SMS aux copropriétaires. Tu reçois, tu peux définir ta participation. Je serai présent à distance, en présentiel, en procuration, ou je fais du vote par correspondance. Déjà, le vote par correspondance, tous les copropriétaires, ils peuvent le faire directement depuis notre application. Le gestionnaire, il n'a plus besoin de rentrer, rien du tout. Il a zéro travail. Le copro, il rentre son VPC, son vote par correspondance, il le signe, il est enregistré dans la plateforme, le gestionnaire, il reçoit le mail. Il n'a rien à faire. Les procurations, c'est pareil. Il n'a pas besoin de les enregistrer. Ils sont enregistrés dans AG Connect. Déjà là, gain de productivité en amont de l'assemblée, incroyable pour le gestionnaire. Ensuite, pendant l'AG, le gestionnaire, il n'a plus besoin de compter comme à l'époque sur une feuille. Hein. Entre guillemets, je caractérise un petit peu le truc, mais pour vous dire, là, AG Connect récolte tous les votes en temps réel. Qu'il y ait 3 copros ou 700 copros, la techno fait qu'on récolte tous les votes en temps réel. Donc les VPC sont déjà comptabilisés et tous les votes live, présentiel, smartphone ou à la main, on les récolte une poignée de secondes. Donc on envoie les résolutions très rapidement et le gestionnaire, il fait confiance à l'outil. C'est lui qui calcule les votes, c'est lui qui calcule les résultats. On partage les résultats à l'écran, le copropriétaire, il voit tout de suite les résultats, il sait ce qu'il en est, etc. On ne cache rien. Franchement, pour moi, c'est l'outil vraiment parfait pour le copro et pour le gestionnaire. Le copro, il ne peut pas dire que le gestionnaire, il a mal compté. Si ça, je ne sais pas si vous savez, mais il y a ce qu'on appelle dans une assemblée générale, en fait, un scrutateur, un président, un scrutateur, un secrétaire. Le président, il est là pour animer l'assemblée avec le gestionnaire, le secrétaire, généralement, qui rédige le procès verbal. Et le scrutateur, lui, son job, normalement, c'est de calculer et regarder que tout soit bien passé pendant l'AG. Mais là, le scrutateur, il ne sert à plus rien. Ouais. Vraiment, il ne sert à plus rien. C'est AGECO qui calcule tous les résultats en fonction des articles, en fonction de la législation, en fonction de la législation luxembourgeoise, française, belge, etc. On est capable de calculer tout ce qui va bien et de faire l'AG comme il va bien. Et ensuite, à la fin, bon, en fait, la rédaction du PV, elle est presque faite. Les votes y sont mis. Le gestionnaire, s'il rentre les comptes rendus en même temps qu'il fait les votes, ou une assistante, parce que quand il y a des gros AG, c'est bien d'être deux quand même, parce que c'est vraiment un gros boulot. À la fin, le PV, il sort. T'envoies les demandes pour signature au secrétaire, au scrutateur et au président. Et ton AG, elle est finie.
Mais, ouais, mais comment ça se passe? Je vais peut-être poser une question bête, parce que j'ai jamais participé à une réunion de copro. Les votes, c'est des votes publics ou est-ce que c'est anonyme? Alors, si c'est le cas, est-ce qu'il y a un contexte d'anonymisation du vote par rapport à la personne? Comment vous travaillez sur la protection des données par rapport à ça?
Alors, c'est une très très bonne question. Donc, c'est pas anonyme chez nous. Ça peut l'être ailleurs. Je crois qu'au Canada, il me semble qu'ils ont des votes anonymes et donc la plateforme est capable de gérer en fait. En fonction de l'Assemblée Générale, on peut dire si on veut des votes anonymes ou pas. En France, c'est clair que non, au Luxembourg non plus. Voilà. Mais si jamais on a besoin, on est capable de le faire. Et là où c'est intéressant, je continue dans ce logiciel Assemblée Générale, parce que c'est un peu le but aussi d'améliorer la productivité, comme tu m'en as parlé, Naïm, c'est qu'en fait, on s'est plugué avec un logiciel qui s'appelle, enfin avec une société qui s'appelle DocUp, en France. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce qu'à Luxembourg, on n'a pas le même principe. Et en fait, DocUp, qu'est-ce qui permet? Ça va beaucoup plus loin. Il permet en fait que quand ils ont créé leur assemblée générale sur notre outil, on envoie la data à DocUp. DocUp a l'info de qui veut quoi en termes de convocation, recommandée papier ou électronique. Ils envoient eux-mêmes la convocation papier à qui de droit, les LRE à qui de droit, recommandée électronique. Et à la fin, le procès verbal, c'est pareil. Le gestionnaire, il clôture, les trois ont signé, il fait envoyer la convocation, enfin le procès verbal, excusez-moi, à DocUp, ça envoie. Et bam, le procès-verbal, il est envoyé en recommandé, s'il faut l'envoyer en recommandé à tel ou tel copropriétaire, etc. etc. Le gestionnaire, il n'a plus rien à faire sur ce sujet-là.
Oui, donc on parlait de l'avantage qu'a ImmoSquare avec les agences immobilières, mais il y a aussi un avantage pour les agences, par exemple, de syndic, de proposer ce genre de service à leurs clients aussi.
Ah, totalement.
Je suppose que les copropriétaires, ils sont très contents de savoir que si demain, ils sont à Hong Kong, ils peuvent quand même participer à leur AG.
Et bah, écoute, belle analyse. Pour moi, les meilleurs commerciaux sont nos gestionnaires, sont nos clients. Pourquoi? Parce que finalement, le gestionnaire, c'est l'outil qui va l'aider pour ses assemblées générales, mais c'est aussi l'outil qui va aider les copropriétaires à participer. Donc clairement, pour moi, et vraiment, on le voit aujourd'hui, nos meilleurs commerciaux vont être des gestionnaires. Parce que ceux qui ont compris les avantages, ceux qui ont compris le bienfait d'un logiciel comme AG Connect, clairement, bah, ils nous vendent auprès de leur copropriété, et c'est tout bénef pour nous, en fait. C'est tout bénef pour nous. Je vais vous raconter une petite histoire qui me fait toujours rire sur ce produit. En 2019, quand on a développé, on lance le produit, je crois que c'était en juin. Oui, c'est en juin 2019. On était tous un petit peu stressés, on va dire. Hein. C'est un nouveau outil, etc. Première assemblée générale, 19 juin 2019, je m'en rappelle. Qui c'est qui vient le premier prospect? Les évangélistes de France. L'association des évangélistes de France qui vient, qui me dit « Moi, je veux faire mon assemblée générale avec AG Connect parce qu'en fait, on a tous les évangélistes de France. Ils sont un peu partout en France et il faut qu'on fasse l'AG. »
Ah, c'est une niche de niche, là.
Niche de niche. Il s'appelle Monsieur Barito. C'est moi qui ai suivi le contact, qui ai fait l'approche commerciale. Aujourd'hui, pour la petite histoire, ils font toujours les AG avec nous. Mais je dis « Monsieur Barito, franchement, vous êtes le premier et tout. Vous êtes sûr? Vous voulez pas qu'on vous accompagne dans l'AG, etc. etc. » Non, non, c'est bon, je vais m'en sortir tout seul. Ok. Bah écoute, ils ont fait l'assemblée, ça s'est super bien passé. Ça a été les premiers à utiliser AG Connect. Il m'a rappelé, il m'a dit c'est un outil incroyable. Franchement, merci. Et aujourd'hui, j'utilise toujours. Mais voilà, quoi, pour la petite histoire, c'est incroyable que des gens. Ouais, tu penses jamais quand tu fais un outil comme ça, de dire que c'est eux qui vont utiliser la première fois l'outil, quoi.
Ben merci aux évangélistes, du
merci
coup.
Merci aux évangélistes, exactement. Bon, on a connu quelques déboires après.
Ouais, c'est une question que j'allais hésiter à la poser. Est-ce que justement, tu as une anecdote où ça s'est vraiment mal passé? Ou en tout cas, vous en avez tiré des learns? Parce que bon, la technologie, on le sait tous, hein, c'est très beau quand ça marche.
Ouais, mais... J'ai une bonne anecdote avec un de nos plus gros clients qui aujourd'hui est Domusvi. Je les cite, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Et même aujourd'hui, c'est moi qui suis les AG de cette cliente. Donc je passe le bonjour aussi à Sophie si jamais elle écoute ce podcast. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, la première fois qu'on a fait les assemblées générales avec eux, en fait, Domusvi, c'est la cible parfaite pour nous. C'est, pour vous expliquer, c'est des gestionnaires d'EHPAD. Donc en fait, c'est des investisseurs qui achètent des chambres d'EHPAD et qui donc sont en copropriété et qui font des assemblées générales. Donc clairement, il n'y a personne qui est sur Paris. Ils sont tous aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde. Et donc la cible, elle est parfaite. Et la première année qu'on a fait ça avec eux, donc c'était au lancement, en 2019. Et en fait, on a une situation où on voit des procurations arriver en cours. On avait ouvert les portes de l'Assemblée et on voit des procurations arriver en cours. Sauf qu'en fait, on n'avait pas géré cette situation. On pouvait enregistrer des procurations avant l'Assemblée et on n'avait pas pris... on savait que ça pouvait arriver, mais on n'avait pas pris, l'info hors cadre live. Et du coup, impossible d'enregistrer ces procurations. Sauf qu'aujourd'hui, impossible de travailler avec un logiciel d'assemblée sans avoir de la procuration live. Donc voilà, petite anecdote, elle est drôle parce que le stress qu'on a eu là, il a été incroyable. Ils ont compris, mais ça nous a permis aussi d'évoluer. Ah, et aujourd'hui, c'est ça un peu l'ADN d'Immo Square. Vraiment, l'ADN d'Immo Square, on a vraiment deux axes. C'est le support à la clientèle, le service client. Nous, chez nous, le service client, il est primordial. Vraiment, on a une équipe géniale, faut le dire. On a une très belle équipe, ils sont formés pour ça. On a l'obligation, entre guillemets, de répondre, même si on corrige pas, mais on a une obligation de répondre dans la journée ou le lendemain si c'est le ticket, il tombe le soir. Mais voilà, on a une obligation de ce type-là avec une gestion de la situation qui doit être faite très rapidement. Et aussi, l'autre ADN, c'est l'écoute du client. L'écoute du client, c'est primordial. Mais moi, je pense que je parle pour Immo Square, mais je peux parler pour toutes les sociétés parce que les clients, ils te font évoluer. Alors oui, des fois...
C'est les meilleurs vendeurs. Hein.
C'est ça. Mais des fois, tu râles. Moi,
ce qui marche voilà. pas, mais au moins, ça te permet de faire évoluer tes outils.
Voilà. Des fois, tu râles. Alors, moi, je suis un râleur. Je suis un petit râleur, mais les développeurs, généralement, pour pas. Je leur fais un petit clin d'œil, mais ils sont beaucoup plus râleurs que moi. Mais on râle, mais à la fin, on est content. À la fin, on est content parce qu'on voit l'évolution du produit. On voit 2019, on voit aujourd'hui 2024. C'est incroyable. Et je pense que aussi dans nos métiers de la technologie, dans l'immobilier, dans les logiciels de la technologie, dans l'IMO ou autre pour moi, ça va être le nerf de la guerre. C'est l'évolution de ta data. La dette technologique, je pense qu'elle va jamais être aussi grande. Elle va jamais être aussi grande et impactante qu'aujourd'hui. Ça avance trop vite en fait. Pour moi, ça avance trop trop vite pour que tu ne suives pas la tendance en fait.
On parlait un peu d'anecdotes, tu me parles là d'innovation digitale. Est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à ça, une innovation digitale, une campagne marketing qui se serait très bien passée ou il se serait passé quelque chose d'un peu intéressant?
Bah chez nous, comme je l'expliquais un peu en off tout à l'heure, on a une équipe de marketing qui se donne beaucoup de mal. Donc comme vous l'avez compris maintenant, je pense avec toutes mes explications, c'est un marché de niche. Donc difficile d'aller chercher du prospect. On a peu de leads entrants. Aujourd'hui, nos leads entrants rentrent beaucoup par du emailing sur du prospect ciblé. Par le site internet, on a quand même des bons référencements. On travaille beaucoup quand même sur le référencement naturel, etc. Enfin, là, on est en train de faire des campagnes aussi réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Parce que je pense que nous, notre cible, elle est clairement LinkedIn. Voilà.
Oui, c'est ce donc, que j'aurais dit aussi. Oui.
Voilà, elle est clairement LinkedIn. Donc du coup, on fait vraiment, on commence des campagnes LinkedIn payantes pour un petit peu voir ce que ça donne. Voilà.
Vous faites ça en interne ou
On fait ça en interne. On a une personne, notamment mon associé Gaël, qui manage un petit peu cette partie. En plus que d'autres choses, et on a appris alors on a une autre personne qui s'appelle Justine, mais aujourd'hui elle est en congé mat, et on a une personne qui s'appelle Quentin qui bosse avec nous sur ce sujet là donc en interne, et on a aussi une équipe au Canada qui est dédiée, donc on a une équipe quand même assez conséquente. On fait aussi beaucoup de rédaction de blog pour avoir de la matière. Et après, non Naïm, je vais pas te mentir, aujourd'hui j'ai pas une campagne qui m'a marqué, qui nous a permis une acquisition de leads conséquente. Ce que nous rapporte aussi beaucoup de leads, c'est les webinaires. On fait beaucoup de webinaires avec nos logiciels partenaires, ça marche bien. Ça marche bien, c'est une cible. Les gens, c'est du métier, donc forcément, ça marche très bien.
Mais comment vous en faites la promotion de ces webinaires? Est-ce que c'est de la publicité Facebook, emailing. LinkedIn, emailing, d'accord.
Emailing de la part du logiciel. Comme ça, le client, il est en confiance, en fait. Il sait que ça vient du logiciel, il connaît, c'est son logiciel. Il fait des années qu'il travaille avec, donc voilà.
Bientôt du podcast. Exactement. Et comment ça se passe? Donc moi, je suis un prospect Immo Square. Je reçois un email qui m'invite à participer à un webinaire, certainement un lien vers une landing page avec une petite vidéo ou quelque chose.
Alors nous, on utilise plutôt Timeforms pour que les gens puissent s'enregistrer sur le webinaire. Ensuite, on a aussi dans nos mails Calendly, pour parler un peu techno, on a Calendly dans nos mails où les gens peuvent prendre rendez-vous avec nous en direct, etc. Ça permet vraiment de faciliter l'échange. Par contre, MLS Connect, on est en train de passer un stade, on peut parler de ça peut-être du côté marketing, qui va toucher les agences immobilières. Donc, tu as beaucoup plus d'agences immobilières que de syndics de copro aujourd'hui, forcément, par rapport au métier. C'est normal. Hein. Je crois qu'en France, il y a 9 millions de copropriétés, de résidences copropriétés. Et je crois que tu as 5000 syndics. Ou si je ne me trompe pas, parce qu'après, les chiffres se mettent tellement à jour rapidement.
Oui, c'est possible.
35 000 agences IMO, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, pour vous donner une stat un peu, pour qu'on discute un petit peu statistique. Donc, nous, clairement, là, on est en train de passer un stade avec MLS Connect ou avec MLS Côte d'Azur. On a créé MLS France pour acquérir de nouveaux MLS. Et on est en train de discuter avec MLS Europe. On a ouvert MLS Europe, on a créé MLS Europe pour que le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, on puisse échanger sur ce sujet du partage de mandat, donc hyper intéressant. Et je pense qu'avec MLS France, on veut aller acquérir de nouveaux prospects, de nouvelles agences. Pareil, complexité, sinon ça serait trop simple chez nous, il faut toujours qu'on mette une complexité. Pour que ça soit un prospect potentiel, il faut que ça soit des agences qui collaborent entre elles. Tu comprends ?
Oui, il y a une forme d'adversité.
Exactement, il faut déjà que des agences elles collaborent entre elles. Pour qu'elles collaborent entre elles, ça veut déjà dire qu'ils ont la mentalité de collaboration. Donc, ce n'est pas simple non plus à aller chercher. Mais là, je pense qu'on peut vraiment faire des campagnes de marketing digital sur le sujet. En plus, lancement de notre nouveau logiciel à jour de toutes les technos. On a rajouté plein de choses dedans. On a rajouté une messagerie interne à la WhatsApp. Enfin, on a fait plein de choses dans ce nouveau logiciel qui nous permettent de dire « je pense qu'on a un beau logiciel marché ». Donc là, je pense qu'il va y avoir des campagnes de marketing très intéressantes qui vont être faites.
Ok, très cool. Moi, j'ai eu toutes les réponses auxquelles je m'attendais. On va passer à la question corset. Aux questions corset.
Ah.
c'est des petites questions traditionnelles de nos épisodes où je vais poser des questions un peu piquantes, un peu qui portent à débat.
Sensibles,
voilà, exactement. Donc là, je vais mettre à la place d'un prospect Immo Square. Et un prospect Immo Square qui est un peu réticent, qui est un peu vieux jeu. Et donc, ma première question, ce sera de te demander... moi j'ai mon agence, elle marche, je vois pas pourquoi je devrais évoluer, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter d'utiliser la suite Immo Square ?
Eh ben écoute, bonne question, bonne question, bonne réponse, non je rigole, mais écoute je pense qu'en 2024 aujourd'hui je pense que les agences elles n'ont pas ce discours là déjà, parce qu'en fait l'immobilier c'est très cyclique. Comme vous le savez, ça monte, ça descend. Aujourd'hui, ça descend. Il y a plusieurs raisons. Hein. Les prix ont été très, très élevés. Et aujourd'hui, les intérêts sont très élevés. Donc aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, vous avez quelqu'un qui est en train d'acheter, quelqu'un de la famille, quelqu'un d'un ami, etc. Aujourd'hui, l'enveloppe que tu avais il y a 2 ans, elle a diminué considérablement à cause des taux qui ont évolué en ce sens. Donc déjà, je pense que lui, le transactionnaire, l'agence immobilière, il est obligé de prendre de la technologie pour se différencier, ou en tout cas, il est obligé de faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que s'il reste comme ça, honnêtement, ça va être très compliqué pour lui. Il a des charges, comme on le disait tout à l'heure, il a des employés, il doit tourner. Même si aujourd'hui, l'immobilier, ça va moins bien, il faut qu'il tourne, parce que sinon, de toute façon, ils vont arrêter. Ça arrive très souvent, c'est là où on voit la différence aussi entre les petits et les gros. Et au final, aujourd'hui, les petits, ils ont du mal. Donc je pense que Immo Square te permet de te différencier. Immo Square t'apporte de la technologie par rapport à ces logiciels qui te permet de te différencier ou qui te permet de collaborer. MLS Connect, pour moi, dans la transaction, je prône en tant qu'agent immobilier avant de collaborer. Je ne comprends pas pourquoi on ne collabore pas. Parce que finalement, que tu sois dans une tendance basse ou une tendance haute, du marché immobilier, tu vas avoir du mandat que tu vas pouvoir mettre à disposition d'acquéreurs potentiels, de prospects potentiels. Tant mieux pour toi. Si t'as beaucoup de mandats, tant mieux pour toi. Tu pourras les vendre grâce à ça. Si t'as pas beaucoup de mandats, tant mieux, tu vas pouvoir avoir du mandat pour les vendre. Et dans un autre sens, quand l'immobilier va bien, c'est bien. T'as plein de mandats, t'as d'autres mandats à vendre. En fait, tu fais encore plus de ventes que tu pourrais faire. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Voilà, moi je pense que honnêtement, la mentalité aujourd'hui 2024 doit changer sur ce sujet-là. Voilà, c'est mon avis. Après, je baigne dedans. C'est sûr que je suis un bon commercial. Je ne vais pas dire le contraire. C'est notre plus gros logiciel, celui qui a le plus d'utilisateurs. On tourne à 2500 utilisateurs. Donc, 2500 utilisateurs, c'est 2500 agents immobiliers. Donc, c'est 2500 agents immobiliers qui ont cette mentalité, en fait. Parce que où ça va beaucoup plus loin, où ils sont bons, c'est qu'il y a une association derrière ça. Et l'association, elle manage tout ça. Ça veut dire qu'il y a des règles strictes de collaboration. tu respectes pas le règlement, tu pars. C'est simple comme bonjour. Hein. Tu respectes pas le règlement, tu rentres pas tes mandats exclusifs sous 72 heures, tu réponds pas à des demandes, etc. etc. Il y a des gens qui contrôlent. Tu respectes pas le cadre, il y a des gens qui contrôlent. Tu prends des avertissements. Si tu prends 3 avertissements, c'est fini, tu sors de l'association.
Blacklisté.
Et sur 500 agences IMO dans les Alpes-Maritimes, une concentration de croissance entre 150 et 200, si je ne me trompe pas, sur Nice, je peux te dire que ça fait mal. Ça fait mal parce que je fais du AG Connect en même temps du MLS Connect. Les propriétaires à Nice connaissent tous MLS Côte d'Azur. Naïm, t'es propriétaire, j'arrive chez toi. Bonjour, je suis Jérôme. Je suis l'agence du coin, je suis tout seul, je travaille avec 3 collaborateurs. Je vais mettre ton mandat dans ma vitrine, je vais mettre ton mandat sur le bon coin, je vais le mettre sur Facebook et je vais faire venir un photographe. Ok. Bonjour, je suis Pat, je suis agent immobilier, je travaille dans le coin. Je vais mettre ton mandat dans MLS Connect qui permet à 500 agences immobilières de travailler le mandat. Et par contre, vous avez affaire que à moi. C'est moi qui manage, je manage tout. Et par contre, c'est 500 agences IMO qui le travaillent, mais c'est moi qui manage. Vous n'avez rien à faire, vous passez que par moi.
Le choix est vite fait.
Voilà.
Le choix est très vite fait.
Voilà.
Et si je me remets dans la peau d'un prospect IMO Square et que je pose la question, moi, j'ai déjà beaucoup été démarché par des commerciaux de plein de logiciels de niche, comme AG Connect, comme MLS Connect. Qu'est-ce que IMO Square peut m'apporter de plus que les 3 derniers commerciaux que j'ai vus cette semaine ?
Bah écoute, c'est très simple. On est un marché de niche, comme tu l'as dit. Donc déjà, s'il y a un commercial qui est venu te voir pour MLS Connect, c'est un de nos concurrents, c'est la MEPI. On n'est pas beaucoup sur le marché à faire ce genre de business, on doit être 3-4. La MEPI, pour expliquer un petit peu, en France, c'est une association qui fait de la collaboration partout en France, mais qui est surtout managée par les grands réseaux. Century 21, La Forêt, qui a été créée par ces réseaux-là, Orpi. Donc ça va être ce concurrent-là. Clairement, nous, on va se différencier clairement sur notre technologie. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre que nous, on ne vend pas forcément le MLS aux agences immobilières à collaboration. Parce que nous, sans l'association MLS Côte d'Azur, nous sommes rien. Mais l'association MLS Côte d'Azur sans IMO Square n'est rien sans le logiciel MLS Connect. Donc, si tu veux, je vais mettre à la place des deux. On va faire un groupement. Et en fait, on va aller se vendre tout simplement sur notre historique déjà, sur l'historique de ce qui se passe, sur l'historique de ce qui se fait, de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est la plus grande association collaborative en France. On va vendre MLS France, on va vendre MLS Europe. Voilà, on va se différencier de la sorte. Que tu sois un indépendant, c'est-à-dire une agence indépendante dans le coin chez toi, ou que tu sois un réseau, un Century 21, etc., tu peux venir travailler. On te prend du moment où tu respectes les règles, du moment où tu collabores. Il n'y a pas de souci, t'es le bienvenu. Voilà. Nous, on est là et en plus, on va mettre en avant notre outil technologique. On va dire, voilà, tout ce qu'on peut faire. On va lui faire une démonstration d'MLS Connect. Et voilà, ton outil, il est là. Tu peux collaborer. Tu vas l'utiliser presque plus que ton logiciel métier. Je te l'affirme. Nous, on tourne à 600-700 personnes jour en moyenne sur l'outil, connectés en même temps. Et je pense, et j'en suis sûr à 100%, qu'il y a des gens qui utilisent plus MLS Connect que leur propre logiciel métier. Voilà. Je vais le vendre comme ça. Bien sûr, on a une application mobile et tout ce qui va bien pour que tu puisses géolocaliser tous les mandats que tu as autour de toi quand tu es sur place avec une personne. Tu peux montrer directement à la personne, lui faire signer un bon de visite directement sur le smartphone. Enfin voilà, on a toute une techno qui est développée pour améliorer aussi l'expérience de l'agent immobilier. Donc ça, c'est pour MLS Connect. Ensuite, pour AG Connect, c'est hyper simple, c'est pareil. Je pense que tu n'en as pas eu beaucoup parce que AG Connect, c'est aussi un logiciel de niche. Donc, tu as dû en voir 2 ou 3. Et nous, comment on va se différencier ? Franchement, c'est l'état technologique du produit, ce qui fait, parce qu'aujourd'hui, on a fait plus de 5000 assemblées générales avec AG Connect, donc on est quand même, je pense, leader du marché, sans vouloir se mettre en avant, mais je pense que par rapport aux stats, on n'a pas tous les stats, mais je pense qu'on est vraiment sur un leadership du marché. Et clairement, par contre, je mets très en avant le service. Parce qu'en fait, il faut comprendre que là, on est sur du service en live. C'est assez incroyable. Il faut se dire qu'en fait, on a un logiciel métier, sauf que quand le copro, il fait une AG, on travaille dans les dom-tom, etc. Quand il est 23h du soir ou 23h30 du soir, que le copropriétaire en Martinique, il n'arrive pas à se connecter et qu'il appelle, il faut du service, il faut quelqu'un. Là, tu as quelqu'un. Moi, je me rappelle, je vais vous faire rigoler un peu, quand on a lancé le produit en 2019, 2020 Covid, 2021, on a continué. Je partis en vacances en Corse. Je faisais des assemblées générales sur la plage. Je suivais des assemblées générales pour faire le support.
la cravate et le maillot de bain.
Non, bah le maillot de bain en bas, la cravate en haut. Mais c'est pour la petite anecdote. Mais pareil, une fois en Martinique, j'étais en bas. Ma conjointe pourra en témoigner. Il était 00h30. J'étais en train d'aider des copros à se connecter, d'aider la gestionnaire. Mais c'est notre ADN. Et c'est ce que je mets en avant. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que le logiciel métier. Parce qu'un logiciel métier, bon bah voilà, il tombe en rade, entre guillemets les 18h, bon bah on gérera ça demain matin, parce que voilà, bah nous à G-Connect, pas que ça tombe en rade quoi. Pas que ça tombe en rade, parce que le soir, on a 25 AG de 25 gestionnaires différents, avec combien de copros qui vont se connecter sur AG-Connect, etc. Bah il faut pouvoir les aider quoi. Donc on a tout un service support qui est mis en place par rapport à ça. Et c'est là où on se différencie aussi avec les logiciels métiers. Parce que les logiciels métiers, ils n'ont pas un service support qui va le soir derrière. Ils font un service de support comme on le fait sur MLS Connect. De 9h à 18h ou 9h à 20h, bref. Et après, ça s'arrête là. Mais un service support au copro, on est très, très rare à le faire. Et dernier point, la sécurité. Sécurité du produit. Pourquoi ? Il y en a, ils vont me dire, bah, je prends Teams ou Meet, ça me coûte beaucoup moins cher. Oui, ok. Sauf que tu n'as aucune sécurité du copropriétaire qui se connecte. Tu n'es pas authentifié, tu ne respectes pas la législation. Donc, clairement, pour moi, ça, c'est déjà aussi important, quoi. Donc voilà, c'est ce que je répondrais à ces personnes qui sont un petit peu réticentes à devenir client chez ImmoScore.
Et du coup, ma troisième question en corset, si je me remets à la place d'un prospect un peu réticent, c'est je signe où ?
Alors tu peux signer en électronique, en présent, comme tu veux. Non, comme tu veux.
C'est vrai que c'était très convaincant. Moi, je suis pas un travailleur de l'immobilier, mais c'est vrai que c'est très convaincant. Ça a l'air vraiment très intéressant comme technologie, surtout quand on voit les logiciels métiers qui n'ont pas évolué depuis 15 ans. On en discutait en off. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin avec ImmoScore.
Ah bah écoute Naïm, c'est très sympa, c'est très cool. Et puis je voulais juste mettre un dernier point qui je pense important pour ceux qui aiment la techno. Par exemple, quand on parlait des clients qui nous aident à évoluer, le client bancaire qu'on a signé en mai 2023, il nous a fait passer un stade au niveau sécurité incroyable parce que du coup, on n'avait jamais pratiqué ou très peu de tests de sécurité, etc. Et là, on a eu du pentest, on a eu, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en technique, voilà, on a eu des pentesters qui sont été sur l'outil, ils nous ont testé tout ça. Enfin voilà, on a eu tout le compte-rendu de règlement de sécurité, on a tout adapté, on avait deux, trois petites choses mineures. Et aujourd'hui, tu as un prospect qui vient, on lui dit, ben voilà, nous, on a notre pentest, il est là. Les questions de sécurité, parce que tu as quand même la data confidentielle. Hein. Ouais, tu as du nom, du prénom, du mail.
Des adresses, forcément.
Des adresses postales. Tu as quand même. Voilà. Et en plus.
Il a du travail, le DPO, chez vous.
Exactement. Et pour la petite histoire, on vend un logiciel RGPD d'un partenaire belge. Ça, c'est pour la petite anecdote à Naïm. On a un partenaire belge qui a développé un outil de gestion de la RGPD qui s'appelle Immo Data Box. Et en fait, on le commercialise pour les agences immobilières.
D'accord.
Voilà. Ça leur permet de faire de...
C'est un abo annuel.
Exactement. C'est un abo qui te permet voilà, de gérer toute ta partie RGPD avec un logiciel qui fait ça. Et aussi d'avoir du consulting, du DPO si tu as besoin. Et donc, voilà. Donc, nous, on a une personne chez nous qui s'appelle Arnaud, qui a ce sujet en plus d'autres tâches, qui s'occupe de ça. Donc, clairement, nous, au niveau RGPD, on est assez strict chez nous vu qu'on en vend par l'intermédiaire d'un prestataire et qu'on a quelqu'un chez nous qui connaît bien ce sujet.
Voilà. Ben, un grand merci à toi, Jérôme.
Merci à toi, Naïm.
Bonjour à tous. Donc moi, c'est Antoine. Je vous rejoins aujourd'hui pour discuter un petit peu de marketing, marketing digital et aussi en fait un peu d'IA. Donc comme c'est un créneau qui moi m'intéresse beaucoup et comment en fait cette dernière peut parfois s'appliquer et être utilisée pour le milieu de l'immobilier. Donc, si tu veux bien, je vais te proposer en fait quelques sujets de marketing sur lesquels en fait on va échanger et tu peux me donner ton ressenti. Est-ce que toi tu les as déjà testés? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose que tu utiliserais toi ou que tu recommanderais à utiliser? Donc, est-ce que toi ça te convient?
C'est parfait, Antoine.
Ok, alors on est parti. Alors, le premier, c'est en tant qu'acheteur ou que personne qui recherche un bien. Moi, j'aurais souvent aimé avoir accès à des workshops, à des vidéos ou des réunions éducatives pour m'aider en fait à apprendre un milieu que je connaissais pas du tout. Est-ce que ça, que ce soit en live sur Internet ou en mise à dispo de vidéos ou même au contraire en réunion physique, est-ce que c'est des choses qui se font? Est-ce que c'est des choses que tu recommandes ou que tu peux mettre en place?
Alors nous, on fait chez ImmoScore des workshops en interne, mais c'est vrai que dans l'immobilier, j'ai pas tendance à en avoir vu beaucoup, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que effectivement, déjà, ça permet aussi à tout le monde de pouvoir comprendre un peu quel est le métier de l'immobilier, la profession, et aussi, c'est un vaste sujet en fait, hein, tu peux toucher de l'immobilier, du bâtiment, de la copropriété, on en parlait tout à l'heure avec nos logiciels, donc je pense que les workshops, je pense que c'est une bonne idée si une agence IMO se lance là-dessus. Ça permettrait de faire aussi comprendre beaucoup plus facilement aux gens qui souhaitent acheter ou qui souhaitent louer même. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu pareil. Hein, la législation, elle est compliquée aussi à la location. Expliquer ce qu'est un bail, expliquer ce qu'est un état des lieux. Moi, en étant ancien agent immobilier, j'ai des expériences ou des anecdotes qui sont un peu hallucinantes. Mais voilà, donc je pense que le workshop peut vraiment être une bonne solution. Après, moi, je le ferais plus en live, en fait. Alors, peut-être pas en présentiel, parce que je me doute qu'aujourd'hui, avec les métiers de tout le monde, la charge de la vie, c'est compliqué. Mais par contre, de faire du workshop en live, je pense que c'est bien. Et de pouvoir le partager après au plus grand nombre, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Ouais. Ok, cool. Et puis, c'est aussi une façon, mine de rien, de récupérer aussi du marketing qualified lead, si tu mets ça derrière un paywall simplement d'adresse mail ou d'information. Un autre sujet que je souhaitais aborder, c'était, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est TikTok, qui peut être utilisé donc pour plein de choses, à la base, c'était beaucoup de vidéos courtes, de l'infotainment, voire de l'entertainment tout simplement. Aujourd'hui, la plateforme TikTok, au-delà de ses soucis un peu judiciaires aux États-Unis, elle est aussi en train d'opérer un shift vers des vidéos plus longues. Donc, elle a tendance aujourd'hui à favoriser toutes les vidéos qui font plus d'une minute. Et moi, ça m'a un peu fait penser donc comment on pourrait appliquer ça dans l'immobilier, typiquement en faisant, je ne sais pas, des présentations de biens. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que tu as déjà vu réaliser, que tu encourages?
Moi, j'ai déjà vu donc réalisé par des agences immobilières, tout à fait. Moi, je l'encourage à 200%, à un moment donné, je pense que les réseaux sociaux, c'est bénéfique aussi pour ce métier, hein, l'immobilier. Moi, je prône quand même de s'afficher depuis des années, parce qu'aujourd'hui, oui, ça vous paraît peut-être, entre guillemets, marrant de voir quelqu'un faire une vidéo pour faire une visite d'un bien et qui montre le potentiel du bien directement via les réseaux. Moi, quand j'ai commencé, personne ne faisait ça, en fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de mettre sa personne en avant et de se valoriser et de dire moi je suis l'agent immobilier, un peu t'as un notaire, on en parlait tout à l'heure, t'as un boulanger, ouais. Enfin, je veux dire, c'est, faut que ça soit que ton agent immobilier soit identifié autour de toi,
ouais, et puis ça apporte aussi un peu d'authenticité, je pense,
totalement
à ta marque, à la personne,
c'est ça. Et le contenu, il est intéressant, je veux dire, honnêtement, on a tous cherché à acheter, où on veut acheter, où on veut louer, peu importe, t'as toujours envie de te dire j'aimerais bien voir le potentiel du bien tout de suite, tu l'as vu, etc. T'as pas envie d'attendre la visite. Donc je pense que t'envoies, déjà ça fait gagner du temps à tout le monde.
Ouais.
Mais t'as des exemples d'agences immobilières qui ont fait du contenu vidéo, mais pas forcément du contenu traditionnel, je veux dire, en filmant un peu bêtement le bien, mais...
Après t'as quand même... Faut quand même pas oublier que tu as les réseaux, moi je parle aussi en France parce que, oui. Et au Luxembourg, hein, tu en as aussi, mais les gros réseaux, faut pas oublier que tu en as qui viennent des États-Unis, tu as Century 21 qui est un réseau américain, donc ils amènent aussi une expérience aux États-Unis. Nous on a une branche canadienne, enfin une société au Canada. Quand tu vois un petit peu ce qu'ils font, le courtier, c'est une star, hein, le courtier au Canada, il passe pas une journée sans se mettre sur Instagram ou sur TikTok.
Ouais, faut regarder les vidéos du courtier.
Et tu le vois plus que presque l'influenceur que tu suis pour n'importe quel sujet. mais moi, au début, ça m'a fait un peu bizarre. En étant agent immobilier, je me suis dit, enfin de base, je le suis plus, mais j'y étais. Je me disais, ouais, quand même, le mec. Mais en fait, là-bas, c'est monnaie courante. Et je me dis, mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? En fait, une journée d'un agent immobilier, elle n'est pas toujours forcément remplie. Je veux dire, à un moment donné, tu as fait tes visites, tu as fait ta prospection, etc. Bah, pourquoi pas le temps plutôt peut-être de faire des choses qui ne sont pas qualifiantes ou qui ne t'amènent pas de valeur ajoutée. pourquoi tu fais pas du réseau, ouais, les réseaux sociaux,
l'impact peut être beaucoup plus élevé après.
Peut être énorme en fait,
parce que le nombre d'impressions que ce soit sur des plateformes comme TikTok, et puis même après moi en tant que voilà, en tant que personne qui fait des campagnes, je conseille aussi toujours aux clients la capacité que une simple vidéo qu'on a faite juste pour son TikTok, ça va aussi très vite être transformable en publicité sur Instagram, etc. Donc, réutiliser le contenu. Et en fait, c'est vrai qu'en investissant quelques heures pour créer une bonne vidéo, on peut s'ouvrir à parfois des millions d'impressions sur d'autres réseaux, sur tous les réseaux publicitaires, quoi.
Exactement ça. Après, ici à Luxembourg, tu as des agences qui le font pas mal, qui se différencient. Bah, après, c'est pareil, hein, c'est des réseaux qui sont arrivés des États-Unis. Tu as Remax, comment ils s'appellent ? Je crois que c'est Coldwell, qui est une agence un petit peu luxueuse, qui font du bien haut de gamme. Voilà, ils passent du temps, ils se montrent. Le seul défaut que je mettrais à ça, et je pense que c'est là où vous aidez, c'est que moi, en tant qu'agent immobilier, je peux faire la vidéo, etc. Mais par contre, je suis en incapacité de faire du montage, d'en rendre quelque chose peut-être en mode publicité, tu vois. Donc c'est là où je me dis, c'est peut-être ça aussi le frein des agents immobiliers, parce que ils sont peut-être doués pour se mettre en avant, entre guillemets, etc. Mais entre le faire et après le montage pour le mettre en avant sur le TikTok, etc. Voilà, c'est là où j'aimais peut-être. Ouais, c'est un autre. Pour moi, c'est un job à part entière. Et t'as des startups qui se sont spécialisées là-dedans, notamment une startup en France qui s'appelle Cocoon, avec qui on travaille beaucoup. Ils se sont spécialisés dans les réseaux sociaux, dans le marketing digital lié à l'immobilier, en fait. Voilà. Parce qu'il y a forcément une niche. Et ils font de l'automatisation, etc., du contenu. Mais voilà, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Par contre, pour finir là-dessus, je pense que c'est pas... comment dire ? Les agences immobilières, pour eux, ils ont encore du mal à comprendre que c'est pas un budget qu'ils vont allouer en premier. Alors que je trouve que c'est une erreur de leur part, justement. Ou alors, quand c'est des conditions difficiles comme en ce moment... T'as la plupart des agences immobilières, ils vont se dire « Ah tiens, qu'est-ce que j'arrête ?»
Ouais, couper la com en premier.
Et ils vont couper la com. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ouais. C'est l'erreur à ne pas faire, surtout dans l'immobilier. Je trouve que c'est une erreur...
Ah bah oui, bah tu te coupes... T'as l'impression que c'est la première chose à couper, alors qu'en fait, c'est probablement la dernière quand tu veux t'en sortir.
Tu sais, j'ai une petite anecdote sur ça. À l'époque, quand j'ai commencé, moi, en 2009, la profession immobilière, et je sais pas si vous vous rappelez, on avait le Logique Immo, qui aujourd'hui, c'était un magazine. C'était un magazine qu'on avait. Et en fait, ce qui me faisait vraiment rire, c'est que quand tu parlais aux agences immobilières, je leur disais « Mais le Logique Immo, ça te sert à quelque chose ?» Non, non, mais au moins, on est dedans, on est encore en vie.
Ouais.
Au moins, les autres agences, elles voient qu'on est encore en vie. Bon, ok, je dis, ok, mais tu veux, enfin, tu mets du budget pour juste dire que tu es en vie, mais pas acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux leads, de nouveaux clients. Voilà, c'est un peu, c'est un peu la mentalité, si tu veux. Bon, aujourd'hui, elle a changé, bien heureusement, mais après, je peux pas leur jeter la pierre sur un sujet, c'est que les portails leur prennent énormément d'argent.
Ouais.
Énormément, que ce soit Luxembourg ou France, les portails immobiliers sont très, très chers, donc ils mettent beaucoup d'argent dans la diffusion des annonces sur les portails.
Un autre sujet moi que je voulais aborder, c'était un truc que j'ai vu un petit peu sur internet, c'était l'idée d'offrir des cadeaux de bienvenue en fait une fois qu'on a fait un closing et qu'on a réussi une vente, et en fait qui tournait aussi un peu cette idée dans le sens de lier ça à au soutien du commerce local, de l'environnement et du quartier. Donc, non seulement offrir un cadeau de bienvenue, mais le faire en fait en liaison avec les commerçants du quartier. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça ?
Écoute, c'est top bonne idée pour moi. Ça va même plus loin que ce que tu dis, parce que moi, j'avais l'idée toujours de se dire, on offre quelque chose aux clients. Voilà, on a fait un deal ensemble, on a une expérience de vie ensemble, parce que tu achètes quand même un bien, je veux dire, c'est une expérience de vie, pour la plupart. Hein,
le premier, en général, c'est l'achat le plus important.
C'est ça, parce que si tu tombes sur un investisseur, je comprends que c'est un peu différent, mais voilà, on va dire et primo-accédant en plus, on va aller jusqu'au bout, qui achète, c'est une expérience de vie. Donc, ouais, moi, j'ai toujours eu l'idée d'offrir un cadeau, quelque chose. J'ai même été plus loin, c'est même d'offrir quelque chose à chaque anniversaire.
La
date de la vente. Comme ça, en fait, tu reviens dans les esprits, quoi. Chaque date d'anniversaire, même un petit bouquet de fleurs, quelque chose, une petite intention qui fait que tu gardes au chaud tes clients et ils savent que tu existes encore et que tu es encore là et, mmh. et que tu as été content de travailler pour eux et avec eux. Donc moi, c'était ça. Mais toi, où tu vas plus loin, Antoine, c'est une top bonne idée, c'est de lier le cadeau à la proximité des commerçants, des artisans, qui aujourd'hui vont être aussi tes meilleurs rapporteurs de leads. Parce que demain, moi, je te mets dans la boucle de mes cadeaux, tes fleuristes, tes boulangers, tes cavistes, etc. Bah, peut-être que quand lui, il va avoir quelqu'un qui lui dit « Tiens, cherche à vendre, cherche à acheter », c'est Jérôme qui va appeler en premier.
Clairement.
Voilà. Je ne suis pas agent immobilier, mais, ne m'appelez. Mais pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. Donc, je trouve ça vraiment être une top bonne idée. Et je pense que ce n'est pas souvent ou pas assez fait. Et franchement, je n'ai pas aujourd'hui entendu un agent, un ami, une connaissance que j'ai, offrir des cadeaux avec cette proximité du quartier où le client il a acheté.
Ouais.
Je peux me tromper, hein, je ne connais pas tout le monde.
Ouais, parce qu'en général, souvent, je pense que les gens, quand ils, en tout cas les professionnels, quand ils vont faire du cadeau, ils opèrent souvent un arbitrage entre le coût que ça va coûter sur le moment. Donc ouais, j'ai plus intérêt sur le moment à aller acheter des goodies que je vais commander par 10 000 sur AliExpress parce que ça me coûte pas cher et que c'est un truc cool, physique à offrir. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, à long terme, le bénéfice sera beaucoup plus important comme tu disais, en travaillant avec le caviste, avec le boulanger ou avec le fleuriste du coin. Parce qu'une fois que tu as acheté ton package sur AliExpress, ces gens-là, ils ne vont jamais te ramener un client ou un lead potentiel. Alors que si tu utilises un peu le tissu local, là, par contre, tu auras très probablement des meilleures retombées, peut-être moins facilement quantifiables, mais il y en aura, c'est évident à long terme. Quoi.
C'est évident. Et puis, c'est un métier de proximité. Hein. Moi, je pense que l'agent immobilier, il a un métier de proximité comme beaucoup de métiers. Et je pense qu'il faut qu'il soit présent aussi sur le terrain. Et rien de mieux que s'entraider entre artisans, commerçants et faire marcher le business comme ça, en fait.
Et maintenant, on va passer à une autre section, on va dire, de notre discussion qui concerne un sujet qui, moi, m'est très cher, que j'utilise, que je traite tous les jours, qui est l'intelligence artificielle. Donc voilà, on en a déjà discuté dans le premier épisode. C'est quelque chose qui est arrivé, qui est là pour durer et qui impacte un petit peu les journées, les habitudes de tout le monde, en tout cas pour ceux qui s'en servent. Et je me demandais, donc j'ai un peu réfléchi sur le monde de l'immobilier, comment l'IA pouvait aider un petit peu les agents immobiliers. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que l'IA est très bon et très performant pour générer des textes, et notamment quand ces textes sont cadrés et ont un certain format. Donc j'ai tout de suite pensé aux présentations, au listing en fait, des propriétés. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose que tu as vu utiliser, que tu recommandes d'utiliser pour la génération de textes?
Tout à fait. On le voit de plus en plus. On l'a vu déjà il y a quelques années où tu as des startups qui se sont mis dans ce business de la rédaction de textes enrichis, automatisés. Aujourd'hui, clairement, je pense que c'est le nerf de la guerre d'enrichir le texte de l'annonce, de le différencier et aussi d'éviter les fautes d'orthographe, les fautes de preuve, parce qu'on n'y pense pas assez, mais je veux dire aujourd'hui, ça existe, faut pas se mentir. Et là, c'est marrant qu'on en parle. Il n'y a pas plus tard qu'hier, on a fait des tests avec ChatGPT sur un de nos logiciels qui s'appelait, on en parlait avant, MLS Connect. Et en fait, nous, c'est de la collaboration entre agences. Et si tu veux, le problème, c'est que si tu collabores avec l'agence et que tu veux envoyer ça à ton prospect, comment tu fais s'il y a le nom, le prénom de l'agent immobilier de l'autre agence, son numéro de téléphone, etc. En fait, ChatGPT, ils sont capables de te supprimer ces informations-là qui nous font préjudice sur notre logiciel. Donc clairement, c'est une avancée techno pour nous qui est importante parce que tu imagines... Je sais pas, on doit sur, je te dis n'importe quoi, mais sur l'aplat de ce client précis-là, on a quoi? On a 5000 biens qui tournent. Comment on fait? On va pas mettre quelqu'un qui tous les jours va aller chercher le texte des annonces. C'est impossible. Donc là, clairement, c'est incroyable pour nous qu'une techno d'intelligence artificielle puisse faire ça. Et puis, je pense qu'il y aura un travail aussi dans l'IMO sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur les photos aussi. L'amélioration des photos. Nous, on l'utilise déjà, tu sais, sur... du vidage, etc., de d'encombrement dans des photos. On a fait des tests sur de l'IA, sur des applis qui font de l'IA sur ça, et franchement, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Je pense qu'ils sont pas loin d'être au même niveau que le mec qui Photoshop derrière.
Donc ça pourrait presque à terme remplacer... tu peux partir d'un shooting ou de photos. C'est vrai qu'on voit souvent des photos peut-être un peu moins bonne qualité, Et donc de pouvoir nettoyer, de modifier, d'améliorer la qualité même.
Ah oui, je pense que honnêtement là dans quelques mois ils seront capables de faire ce que le job, enfin que le job des autres prestataires, pardon, des humains font aujourd'hui sur ce sujet-là.
Ouais. Bah c'est marrant parce que dans mes recherches pour cet épisode, je suis tombé aussi sur un outil qui s'appelle epique.ai, donc E-P-I-Q-U-E. Et en fait, qui est un outil qui permet, apparemment, qui est aussi dédié à la niche de l'immobilier basé sur l'IA, et qui permet en fait de... Alors qu'il y a plein de petits outils qui vont permettre de rédiger la biographie d'un agent, de rédiger des blog posts, de générer des images, de faire tout de suite un plan d'email nurturing, d'envoyer ces emails, et puis de la description de propriété, de gérer des devis, etc. Donc c'est, je sais pas en fait s'il est déjà dispo pour du français, mais en tout cas ça avait l'air assez intéressant, il y avait des bons retours. Donc
je connais pas du tout, mais je pense que c'est une
bonne
chose.
On mettra le lien dans la description.
Ouais, et c'est des bonnes idées, parce que l'agent immobilier, je pense, a besoin justement de l'intelligence artificielle pour l'aider et améliorer.
Ouais, être accompagné. De toute façon, c'est ce qui revient en fait de plus en plus dans mes discussions sur l'IA, c'est que l'IA, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un un peu au-dessus de ton épaule qui a certaines compétences, certaines possibilités de t'aider dans des domaines où tu as un potentiel, mais où il te manquait une petite brique. Et aujourd'hui, bah, ça te permet en fait de couvrir beaucoup plus d'espace et de gérer beaucoup plus de choses.
Totalement.
Et justement, bah, ça me mène au dernier point où celui-là, moi, je trouvais le plus intéressant. C'est que quand on vend un bien immobilier, en fait, on ne vend pas que juste l'appartement ou la maison. Techniquement, on vend aussi un peu tout ce qu'il y a autour. Comme tu disais, c'est une partie de la vie des gens. Donc, on s'installe dans un appart, mais ça veut dire qu'on va vivre dans un quartier. Ça veut dire qu'on va élever ses enfants, on va les amener dans ces écoles-là, etc. Et donc l'IA a une capacité, comme tu l'as mentionné, de traiter de la donnée en fait quasiment de façon infinie et aussi de façon très précise. Est-ce que toi aujourd'hui tu vois une opportunité dans l'analyse statistique de données en fait qui sont aujourd'hui un peu de surface, je vais te dire. Ouais, il y a une école dans le quartier, oui, il y a X restaurants, mais qu'on pourrait en fait pousser beaucoup plus via l'IA.
Bah écoute, nous, dans notre logiciel MLS Connect, on a un prestataire avec qui on bosse sur ce sujet, parce que tu as quelques startups quand même qui s'y ont mis, parce que c'est vrai que c'est la data quartier, elle est hyper intéressante pour l'agent immobilier. Donc nous, on bosse avec une structure, une startup qui s'appelle Alentour, où clairement, ils t'identifient autour du bien les écoles, les restaurants, les bus, enfin, tout ce qui est transport en commun, etc., les pharmacies, enfin plein de choses. Donc ça, c'est déjà à disposition. Nous, on fait du B2B, donc c'est à disposition des agents immobiliers. Mais tu as d'autres startups aussi qui s'y ont mis. Je crois que tu as quel quartier, tu as pas mal de startups qui sont sur ce sujet. Clairement, c'est une data, c'est pour moi une des data les plus importantes.
Et est-ce que cette data, maintenant, elle arrive à être, j'ai envie de dire, pas seulement statistique, mais aussi qualitative, dans un sens où on discutait un petit peu avant le podcast, c'est un sujet qui fait l'actualité, malheureusement, en ce moment, avec les catastrophes naturelles, etc. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, voilà, dans telle zone, on a une probabilité d'inondation, une probabilité de tempête, etc.
Bah, je suppose qu'aujourd'hui, oui. Après, moi, je ne l'ai jamais vu utilisé dans notre métier. Je suppose qu'il y en a qui le font. Et pareil, c'est hyper intéressant. Je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi une sorte de combat sur la recherche du prospect qui va vendre. Parce que finalement, le nerf de la guerre, c'est de se dire, tiens, lui, il va vendre. Potentiellement, il va vendre. Il commence à chercher pour faire une estimation, etc. C'est le nerf de la guerre du métier de l'agent immobilier. Je sais qu'il a, pareil, ils essayent de trouver des solutions en IA pour essayer d'aller collecter ces informations, cette data qui est hyper intéressante pour les agents. Et moi, j'y crois aussi. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour un agent immobilier, pour moi, le concurrent numéro un, c'est le particulier.
Ouais.
Il ne faut pas l'oublier, dans nos métiers, le concurrent numéro un, c'est le particulier. Et je pense que l'IA va aider la profession immobilière a éliminé des parts de marché aux particuliers.
Okay.
Je pense, honnêtement. Je pense parce que je vois mal le particulier utiliser l'IA lui-même.
Et atteindre un tel niveau d'utilisation de l'IA parce qu'il aura jamais... En fait, il aura le même outil dans les mains, mais il saura moins bien s'en servir.
Voilà, pour moi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et je pense, et c'est pour ça que j'y crois fortement, que ça soit dans nos logiciels à nous, chez ImmoScore, ou pour les agents immobiliers en France, au Luxembourg, en Belgique, peu importe, partout dans le monde même, que l'IA va aider la profession et va essayer de prendre plus de parts de marché que ce qui est aujourd'hui la profession immobilière par rapport aux particuliers. Voilà. Parce que au Canada, comme j'expliquais tout à l'heure, quand tu as 95%, voire 96%, je crois, de parts de marché pour le professionnel de l'immobilier, et où en France, on est plus maintenant, je pense, à 60-40, il faut aussi se poser les bonnes questions, du coup. Parce que là, tu sais, beaucoup pensent qu'il y a un combat... Je parle de combat, mais voilà, c'est pas péjoratif, mais entre le mandataire et l'agence immobilière. Mais n'oubliez pas qu'il y a 40% du marché qui est sur le particulier, en fait.
Ok, c'est énorme comme part. En fait.
Moi j'ai des stats, peut-être elles ont un peu évolué, mais honnêtement, ça ira pas au-dessus de 70-30. Hein,
je pensais pas du tout.
Ouais.
Ok.
Voilà. Donc pour moi, l'agent immobilier, aujourd'hui, il a les cartes en main pour révolutionner un peu son métier. Pour révolutionner un peu aussi la vision des choses que les gens ont sur la profession. Et je pense que l'IA va être un collaborateur, un associé de choc pour nous aider sur tout ça. Voilà.
Ok. Écoute, enchanté d'avoir pu échanger avec toi.
De même.
Je te remercie. Et puis j'espère qu'on aura réussi à donner au moins quelques bonnes idées aux auditeurs aujourd'hui pour un peu enrichir leur arc.
Merci à toi, Antoine.
Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. On est disponible sur toutes les plateformes et on attend vos retours.
Voilà, un petit pouce, un petit like, c'est bon pour l'algo.
Et pour notre ego, évidemment.
Prochain épisode, on accueillera Carlo Cravatte, qui est gérant du Grand Hôtel Cravatte. On va parler hôtellerie de charme. Enfin, quand je dis charme, je me comprends.
C'est un peu bizarre, oui.
Je viens de réaliser... Non, enfin, voilà, hôtellerie de luxe, hein, mais je crois qu'il se définit comme une hôtellerie de charme traditionnelle. Des nouveaux sujets intéressants, retargeting, développement de réseaux sociaux et autres.
Et si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir notre premier épisode. Ça portait sur l'IA, comment on peut doper sa productivité à l'IA, avec Antoine Cordier, qui est Head of Digital Marketing chez eConnect. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est le moment.
Et encore merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas que chez nous, le seul cookie que vous trouverez, c'est celui qui accompagne votre café.
Salut.
À bientôt. Ciao, bisous.